Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Un enregistrement un lundi, c'est weird.
On s'excuse.
C'est moi qui dis.
Je pense que c'était iChat qui a là encore. Là.
En passant, Milton est là ce soir, il est juste caché comme là. Là.
Le micro, il y a des bras.
Je peux-tu tasser mon... Non, je peux pas tasser mon... Ouais? C'est parce que j'ai le mot au milieu, c'est Eric qu'on voit pas, puis là...
Non,
attends, on va rendre ça interactif. Désirez-vous cacher Eric ou... Non, je fais pas ça. Lundi 16 février 2015 en direct du Schlag.
Yes!
Yes! Le Schlag frigorifié.
Oui, ben tu sens pas la levure, c'est toujours c'est avantageux.
T'as peur quoi?
Non, mais il y a une usine de levure allemande.
Levure shake and bake ou levure?
Ben, en tout cas, t'as bien de la levure qui se passe à, dans le Schlag pendant le temps, ce que tu peux sentir, puis les senteurs se promènent. Fait que oui, t'as ça, mais des fois t'as du pain chez pommes ou des biscuits.
Mais on le sent pas.
C'est donc ça, pour les habitués, vous comprenez que je suis accompagné ce soir d'Éric Hébert et Jonathan Milton.
Bien, la première dérape.
Très bien, très bien.
Good, c'est quoi, ça fait même pas une minute pis on dérape déjà.
Ouais, hors
sorry, sujet, ça va bien. Et accompagné avec nous ce soir, on a Christine et Noémie.
Salut!
Bienvenue au collectif.
Merci.
Donc, on va avoir la chance de découvrir un peu Festiomuse ce soir, dans le fond, qui est votre bébé... votre gros projet, dans le fond, qui vient de...
Oui.
On vient de passer l'édition 2015, c'est ça?
Oui, la fin de semaine dernière.
Excellent. Donc, on a une tradition collective, qu'à chaque épisode, j'explique qu'on a une tradition collective. Fait qu'à un moment donné, j'imagine que les gens vont commencer à s'en souvenir. Tu sais, les 3-4 personnes qui écoutent, là.
J'espère avant saison 2.
Avant d'arriver à saison 2, on devrait avoir des habitudes d'établir, Eric.
C'est ça.
Donc, le 56e épisode du collectif, on va débuter en faisant un tour de table avec tout le monde. On va vous inviter à participer avec nous. On va parler d'actualité, s'il y a des trucs qui vous ont marqué dans les dernières semaines. Là, c'est sûr, c'est comme un peu le down de votre événement. Fait que là, vous avez probablement eu du temps pour vous asseoir, respirer, prendre un bain.
Faire quoi?
Non? OK, bon, mais ça n'arrête pas. Parfait, mais on pourra en jaser en profondeur. Qui veut briser la glace ce soir?
Moi, ça ne me dérange pas.
Toi, ça ne te dérange jamais.
Ça me dérange jamais. Moi.
Quel jeu d'Xbox t'as joué cette semaine,
Luther?
Quoi?
Même pas Minecraft?
Ben oui, j'ai continué à Minecraft un peu, mais... Des fois, ce jeu-là, il te met tellement en tabarnak, excusez le terme, que t'arrêtes pendant une couple de jours avant de vouloir recommencer parce que t'es pas sûr si tu veux continuer ou pas. Puis parlant de ça, Eric, ça n'a pas rapport pantoute, mais mon fils qui joue, ben là, il faut que je trouve une façon de barrer ma carte de crédit parce que...
Ah non!
Il a acheté un pack de Minecraft, de même, là, un pack de skins puis de décors de Noël. Ça m'a coûté 5$, puis là, je l'ai regardé en le chicanant, tu sais, pour y expliquer. J'ai dit, au moins, t'aurais pu, tu sais, la grosse chicane, tu sais, j'ai dit, au moins, t'aurais pu downloader le pack des Avengers, tu sais. Puis là, il voulait celle de Noël, il y a juste 4 ans, il comprend pas, là, il tripe sur Noël, tu sais, fait que... C'est ça. Fait que là, je pognais avec un pack de Noël que je jouerais jamais avec, même à Noël, parce que Chris, il est plate, là, c'est... C'est ça. Mais c'était pas de ça que je voulais parler.
C'est correct.
J'ai joué à un petit jeu que je trouvais écœurant qui s'appelle MLG pour Major League Gaming. Flappy Bird 420. Fait que c'est comme Flappy Bird, mais sur le crack. C'est n'importe quoi. C'est des références internet partout. Genre, tu fais rien jouer à Flappy Bird. C'est comme le classique qu'on a tout essayé au moins une fois. Mais admettons, une fois que tu passes le premier tuyau, ben ton bonhomme, soit qu'il pogne une cacane de Mountain Dew, un Sonic the Hedgehog ou une feuille de pote, Puis s'il pogne le Mountain Dew, ben il y a du gros dubstep qui se met à jouer. Ton bonhomme, il avance de 50 tuyaux avec des lunettes en pixels. Puis ça a plein de phrases qui t'envoient dans la face que t'as pas le temps de lire. Puis c'est un peu bizarre. Puis, exemple, la feuille de pote, ben t'as des Snoop Dogg qui apparaissent dans l'écran en dansant. Puis ça te flash dans la face encore des phrases, t'entends des bruits de vidéos populaires internet qui te gueulent dans les oreilles, des no scope ou des vraiment plein d'affaires. Fait que c'est un jeu gratis. J'imagine que tu googles ça puis tu le sors.
Sur quelle excellente plateforme on peut voir ça
maintenant?
Un ordinateur.
Puis je pense qu'il l'a sur téléphone, puis je l'ai même pas downloadé sur téléphone. Fait que je m'ai dit, si je fais ça, j'aurai plus de temps pantoute pour ma deuxième actualité. Qui est
Wait for it.
Tug Life Québec. Contre mon gré, j'ai créé un monstre. D'habitude, j'essaye de faire de la merde et de créer un monstre sur Facebook, puis ça marche comme moyennement bien. Mais là, j'ai comme fait une mauvaise joke à cause du dernier épisode, dans le fond. Je sais pas si vous l'avez entendu, vous autres, les filles, mais ouais, avec Mathieu Bonin, j'avais fait un shout-out à Christian Bégin, qui avait dit au gouvernement dernièrement « Mangez de la marde, ça a fait les actualités. » Puis moi, j'ai fait comme « Let's go, Christian, dis-leur. » Tu sais, on est de ton bord. Mais en tout cas, dans le sens « Dis qu'est-ce que tu veux, je m'en fous. » Fait que j'ai dit « Je vais faire un talk. » Ben, on a dit « Il faudrait que quelqu'un fasse un talk live vidéo avec ça. » Fait que j'ai dit « On n'est jamais mieux servi que soi-même. » Je l'ai fait moi-même. C'était juste une petite joke de même. Puis j'ai dit « Ah, je vais en faire un autre pour PKP qui criait en français, puis Grégory Charles, le classique exemple, avec Jean-Michel Dufault qui fait juste dire « C'est toi le maillon faible », puis boum, Tug Life avec une toune de Dr. Dre.
Et un autre.
Puis après, j'ai vu des
décris-nous là, on veut tous les savoir.
Je pense que tu t'es dit, même moi, je m'en souviens pas toutes.
Melter, c'est comme la Dominique Michel... des Tug Life QC présentement. Tu sais, tu penses tout le temps son dernier, puis il revient, puis il t'en lance un autre.
Même moi, je pense que c'est mon dernier des fois, puis là, je fais comme « Ah, je vais faire celle-là ». Puis là, il y a le monde qui m'écrive des suggestions. Puis en gros, ça brûle mon sel bien raide. Je le recharge 6 fois par jour. Avant, je le rechargeais 2-3 fois. Là. Je suis rendu à 6, il vibre sans arrêt ou quoi. C'est juste ridicule. Je lis même plus les commentaires parce que le monde sont trop épais pour commenter quelque chose. Ils font rien que taguer leur ami à la place. Fait que, t'sais, la plèbe là, que Murphy Cooper mentionne tout le temps là, dans ses vidéos.
Écoute, le seul statut public que j'ai fait dans les derniers mois, c'était de partager ton vidéo de Grégory Charles. Puis là, j'étais à job, puis mon Facebook VIP, puis là, c'est comme... telle personne que je connais pas a commenté dessus. Puis là, je regarde, puis il donne le nom d'une autre personne. C'est comme un...
C'est
comme un trou sans fond. Ouais. Là, tu sais jamais qui ça arrête.
C'est comme tout le monde se tag. Ah, non, mais quand on est pas tagué.
Ce que j'aime, c'est l'appréciation de ta nouvelle communauté.
Bon, le monde qui. J'aime le monde, ça me dérange pas, mais il faut qu'ils s'attendent à catcher qu'il y en a une bonne gang qui vont partir dans pas long de leur propre gré, parce que je vais sûrement poster une vidéo d'un gars qui chie sur le chest de son ami, comme j'ai fait il y a 2 semaines, qui m'a valu un bloc de 3 jours. T'sais. Fait que j'imagine qu'il y a du monde de plus petite nature ou de quoi qui connaissent pas mon genre d'humour con va. Sacrer leur camp.
Mais ils vont faire quoi dans la vidéo que tu vas publier?
Ben, le monde va sacrer leur camp à cause...
Non, mais je parle dans la vidéo.
En gros, le gars, il avait donné 300$ à son ami pour y chier sur le chest dans un party. Fait que j'ai posté une vidéo. C'était pas mes amis, c'était pas moi qui l'ai filmé. J'étais pas un des gars dans la vidéo.
On aimerait saluer la crowd de muséologues qui viennent se connecter. Bouillon de culture.
Mais en gros, donc, tu sais, je fais pas juste des Tug Life Québec. Fait que je trouve ça drôle l'ampleur que ça prend. Les followers, j'ai eu 1000 followers en 2 jours. C'est qui ce monde-là? C'est comme. Pourquoi tu. En tout cas.
Ben, regarde, écoute, il n'y a pas juste Marc Dupré sur Facebook.
Ben, c'est ça, je me dis. Il y a moi et puis Marc Dupré. C'est les deux seules personnes qui valent la peine de liker et de follower. Mais en gros, c'est ça, je fais des vidéos, c'est sans arrêt, c'est mon vidéo. Mon sel, il brûle dans mes mains d'habitude. Puis c'est fatigant.
Mais, sérieux, là? Merci, Joe.
Ouais.
C'était...
Mais aidez-moi pareil sur Facebook.
Écoute, tu auras ta chance de faire ta shameless plug à la fin de l'épisode.
Allez-y, plus mollo. Juste ça, pas tout en même temps.
Donc, suivant cette anecdote juteuse de Milton, il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait nous éclairer de leur semaine ou?
Ben moi, je peux y aller. Là. J'ai, je pense que.
Attends, est-ce que t'as du monde qui défecte sur d'autres personnes à ce que tu vas parler? Ou?
Non.
Ok, cool. Moi, j'ai aimé la pause où... non.
Je suis pas sûr. Je sais pas si ça me dit de pas en faire, mais anyways. J'ai écouté le 40e de Saturday Night Live.
Ah, pis, oui.
Pis comme toi, tu sais, ou comme bien des gens le savent, j'écoute Saturday Night Live depuis... 86, fait que j'ai 20 ans, là, je pense, j'étais chanceux pour ça. J'étais très chanceux de découvrir Saturday Night Live caché dans une chambre ou de ma tante chez mes grands-parents pendant les temps des fêtes où je restais tard, je regardais la télé tard, puis tu tombes sur du John Lovitz qui est en train de faire le fou. Fait que j'ai bien aimé ça.
C'est de valeur qu'il soit décédé, John Lovitz.
C'est ça, en passant, rest in peace, John Lovitz. c'est très triste, là, vraiment, ça m'a touché.
Je pense que c'est lui qui était le plus touché dans la séance.
C'est le plus touché. Mais en parlant de Lovitz 2 secondes, je pense que j'en avais déjà parlé, là, mais il y a Kevin Smith, il y a une série de podcasts avec lui, que c'est de A to Z of SNL, avec John Lovitz, qui dit juste des anecdotes de Saturday Night Live pendant tout le temps qu'il était là, puis son expérience Saturday Night Live. C'est vraiment bon, puis c'est en comme 10 parties. Mais je l'ai écouté le 40e, on avait une couple de personnes ici, puis tu sais quoi, j'ai pas été déçu. Puis oui, je sais qu'il y a eu des pubs, blablabla, ça je sais pas. NBC, là,
non, c'était
NBC ça va mal, là, fait que s'ils peuvent faire de l'argent, là, je suis bien content. Mais le show, il était vraiment le fun. Quand il y avait de quoi qui se passait, là, j'ai vraiment aimé, à part de la déception qui est la déception de fucking Eddie Murphy, que j'espère que c'est rendu une joke qui est en train de faire sur toutes nous autres en ce moment, puis qu'il va flipper la Switch.
C'est moi où on dirait qu'il a plus le goût d'être là. T'sais, moi, l'impression qu'il donne, c'est qu'il est brûlé, puis il a fait son temps, puis c'est plus comme laissez-moi tranquille, là, mais tout le monde veut qu'il revienne.
Mais c'est weird.
Puis on dirait qu'il s'est laissé embarquer dans la motion, puis c'est comme je vais y aller, puis rendu là-bas, il a fait oui, une pause.
Film là, de Clumps, là, ou je sais pas quoi, là. Il veut plus rien faire, c'est toute la merde. Dr. Doolittle.
Mais c'est pas juste ça, c'est juste qu'il. C'est parce que ça fait une coupe, puis comme fan de Eddie Murphy, quand j'étais jeune, j'espérais toujours qu'il retourne à l'humour. Comme un stand-up, un humoriste, ça retourne toujours à du stand-up. Puis on dirait que ça fait deux grosses tribunes de fous, là. Ils ont fait un show sur Spike TV, que tout le monde, tous les humoristes, c'était quasiment comme une intervention de la communauté de humour aux États-Unis, où est-ce que tous les meilleurs humoristes, ils ont pogné Eddie Murphy, puis ils l'ont félicité pour une carrière de fou, puis un des gars qui a inspiré toute cette salle-là, de la moitié des humoristes qui sont là. Puis à la fin, c'est comme tout ce qu'on veut, c'est que tu fais du stand-up, tous les humoristes font ça, puis ils se lèvent sur scène à la fin, puis comme merci à tout le monde d'avoir venu, puis tape des mains. Comme what the fuck!
Ben, tu sais, j'aurais aimé
faire la même chose
là.
À SNL hier. Là. Ils l'ont même pas coupé. Là. Ils pensaient que je pensais que c'était
ouais, c'est ça. Ils mais l'ont pas coupé. J'aurais aimé voir la face de Chris Rock dans le backstage. Chris Rock qui embarque sur le stage pour les gens qui l'ont pas écouté, puis qui fait une présentation en disant Eddie Murphy, c'est mon héros. C'est la raison pourquoi j'ai compris que tu pouvais faire du stand-up, que tu pouvais faire une carrière dans le stand-up. Eddie Murphy a sauvé SNL dans les années que Lorne Michaels était parti. Mm-hmm. Il fait une mise en scène de fou. Puis justement, Eddie Murphy, écoutez, c'est vraiment touchant, ça fait quelque chose d'être ici ce soir.
Puis j'espère d'en voir comme plein ça, d'autres là. Aussi, j'espère que ça finit pas.
Puis un moment donné, il a même dit « Q1 ».
Non, mais puis le pire, là, c'est oublie pas le setup, là. T'as le setup de Rock qui est comme Eddie Murphy, live sur NBC, s'est fait dire « stretch ça » pendant un autre couple de minutes parce qu'on n'a pas d'annonce, on peut pas couper. Dans Eddie Murphy qui a embarqué sur scène, live, dans les années 80, puis il a fait la joke que Chris Rock a dit, où est-ce que il a dit un mom joke de ta mère, là, où est-ce que ta mère a une face d'un cul, là, puis quand
your mom's got the
shake la tête comme ça.
« Back of her neck, so when she chews like this.
» Fucking hell. Puis on dirait qu'il set up pour qu'il stretch. Il est arrivé sur scène, il était comme « Oh non, continue le cue, là. » Ah, fuck. Anyways, à part de ça, tout le reste, ben du fanservice de SNL. Christy, c'était bon. T'as-tu un skit préféré? Est-ce que vous l'avez vu ou...
Non?
Non plus.
Non.
Okay. Ben André l'a vu, je sais qu'il l'a vu.
MLG, Flappy Bird,
j'ai eu plusieurs moments que j'aimais beaucoup, ok? Premièrement, Bill Murray qui chante le Love Team de Jaws.
Très bon.
Que ça, j'ai fait comme fuck, ok? Ça, c'était un des sketchs que je m'ennuyais de ça. Le beau clin d'œil à Bellucci aussi, avec le diner, le cheeseburger.
En face, ouais.
Le numéro d'introduction avec JT puis Jimmy Fallon, so-so, c'était pas super rodé.
Correct,
c'était correct, mais. Tu sais, il me semble que tu starts avec un bang, là, pis... Mais... Comment je peux dire? C'était une grosse montagne russe. Ça montait bien haut, ça redescendait bien bas.
Mais tu peux pas aimer tout le monde dans SNL.
Ouais.
C'est ça l'affaire. Il y a tellement de mix que...
Mais
pas tout le temps high. Puis...
J'ai un sketch à choisir, puis ils m'ont laissé quand même sur mon appétit, c'était Californians. Avec Betty White puis Bradley Cooper, que c'était cool. Taylor Swift, que elle.
Mais ce sketch-là, bon comme qu'il était, parce qu'il était bon, c'est le sketch de Californians, c'est comment est-ce qu'ils ont fait un genre de transition à la fin avec le vieux sketch de David Spade du Flight
Attendant. Ben oui, le Flight Attendant.
Oh my god. Puis il fait ça, puis ça fait comme un switch que t'as les Californians comme acteurs qui se font sortir comme s'ils embarquaient dans un avion.
Mais je m'attendais qu'ils l'échappent, puis c'est juste ça. Californians, pour faire un bon sketch de Californians, faut que tu l'échappes. Les gens qui ont jamais écouté SNL, le break, dans le fond. Mm. Allez écouter le sketch de Californians. C'est juste magique, là, parce que.
Fait que tu dis que c'est pas drôle à cause qu'il n'y a pas eu de break.
Ben, c'était drôle, mais il l'aurait échappé. Je pense que je me serais levé debout dans le salon et j'aurais crié de joie. Là, toi, c'était quoi ton sketch préféré?
Dans le fond, il y a le numéro de musique où tu as plein de covers, là, où tu as Will. Coudon, j'ai un blanc de mémoire, mais tu sais où ils sont allés faire les. Il y avait plein de différentes humoristes qui faisaient des shows de musique.
Ouais.
Puis t'avais des covers de musique. T'as Will Ferrell qui fait un genre de chrétien avec sa femme en train de faire des covers de musique populaire. Puis je me rappelle, ça, c'était bon dans le temps parce qu'il faisait des covers de musique populaire dans les années 90. Puis là, il attaquait une couple de classiques, là. Turn Down for What, chanté par Will Ferrell comme chrétien hyper, là. C'est assez bon. Puis Wayne's World, ça a bien fini. Moi, j'ai bien aimé comment est-ce que Wayne's World a fini ça. Ils ont ri du show, ils ont remercié.
Ils ont ri de Kanye aussi.
Ils ont ri de Kanye. Mais Kanye a ri de lui-même, là.
Ouais. Ça, c'était cool.
Comme Kanye, c'est sa game, là, en plus, parce qu'il a même fait semblant d'interrupter du stock, là. Mais tout all in all, vraiment excellent, excellent show. J'ai pas été déçu. Bien des annonces, mais ça permettait à jaser puis à boire avec la compagnie.
Fait techno aussi pour les gens qui l'ont pas écouté. Ils ont annoncé hier le lancement de l'application pour iOS de SNL. Par contre, je parle peut-être en dehors de mon chapeau présentement, peut-être pas disponible au Québec ou au Canada. Je crois que oui, par contre. Mm-hmm. Puis c'est un genre de hub central pour aller chercher tous les sketchs et trucs comme ça. Donc, au lieu d'aller sur YouTube et voir la vidéo filmée avec le sel d'un gars qui a baissé le délai de la télé pour pas se faire boycotter.
Oh, tu niaises, j'ai manqué ce bout-là. Quand est-ce qu'ils
l'ont annoncé au début sur le tapis rouge qui est en fait le tapis
j'ai
bleu.
J'ai manqué de la plus grosse nouvelle.
C'était vraiment cool. Puis tout le long, ils ont fait des plugs là-dessus. Ils ont utilisé pas mal aussi Instagram. Fait que c'était cool, il y a des beaux clins d'œil, là, mais un bel événement, puis c'est trouvable pas mal partout, là, honnêtement. Aller voir des reprises de ça, puis tout le kit. Aller l'écouter, c'était génial.
Nice.
Merci, Eric. Puis,
ouais, ben, il faut aussi que je fasse un shout-out de ma team de Heroes of the Storm qu'on a commencé vite fait, là, mais c'est Team Aware, parce qu'on est aware de tout ce qui se passe sur la map.
Oh, ouais, hein. C'est toi qui
as
pensé.
Ben, tu penses.
Non, ouais.
Ben, c'est clair, là. Okay. Parce qu'on était à ça de s'appeler Team JCVD.
Ah, ok, ouais.
Puis là, après ça, on a fait la joke d'Aware, puis on a dit Team Aware.
Attends, fait qu'Aware a gagné contre Jean-Claude Van Damme?
Ben, c'est parce que Jean-Claude Van Damme, c'est lui qui dit Aware.
Oh!
Si jamais tu vois le montage de vidéo de JCVD, là, quand il est au summum de son... De son stardom, puis qu'il va en France faire des entrevues pour la télé française, puis il est en train d'expliquer comment est-ce qu'il est tellement trois steps ahead de tout le monde, puis il est en train de parler en anglais puis en français parce que c'est un gros megastar, ça poudre, puis il invente des concepts vraiment fous, puis à un moment donné, il est là, puis il dit, moi, contrairement à bien des gens, tu sais, moi, c'est parce que je suis aware. Je suis plus aware que des gens, puis il y a des gens qui sont pas aware, puis ils savent pas qu'ils sont aware, mais moi, je suis aware. Oui! Mais shout out à toute la team, là.
Sûrement qu'il a appris ce mot-là en anglais, tu sais, puis qu'il savait même pas que le mot existait en français.
Ouais, c'est ça.
Puis quand il est allé au States, il y a un producteur, puis il l'a pogné pendant qu'il était ben gelé, ça a pas dit, toi, you're aware. Puis, oh shit, ça a resté.
On va streamer.
Même pas plus que c'est quoi.
On va streamer sur Twitch, puis tout ça, puis ça va bien aller. Oh, puis ouais. On est une équipe très animée. T'as joué avec Boris une fois, fait que tu sais comment est-ce qu'il peut être.
Écoute, est-ce que Boris a une souris de rechange? C'est tout ce que je me demande.
En fait, Boris, il a une bonne souris. C'est tout ce qu'il faut.
Ah, fait qu'elle résiste aux impacts, c'est ce que tu me dis. Excellent. Merci, Eric. Fait que j'ai hâte de voir le succès de Team Aware, dans le fond. Streamez-vous sur Twitch une fois de temps en temps aussi?
Ouais, sur mon channel montréalien. Mais aussi, on est toujours titré meilleure équipe au Québec.
Sur combien d'équipes?
aucune idée. Puis on sait, à date de ce qu'on sait, on est la meilleure équipe au Québec. Mais on est prêt à se faire planter par toutes les meilleures autres équipes au Québec juste pour apprendre et être meilleur.
Bon, ben, génial. Merci beaucoup. Mesdames, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous dans les dernières semaines?
Moi, je vais lancer le bal. Je dois d'office me confesser.
J'ai une amie qui m'a amené voir Fifty Shades of Grey.
Oh non! J'ai une honte d'être avec toi!
Et moi, j'ai une chose à dire.
Là, on va
j'ai évité le show avec ma femme, puis là, il faut que je le vive ici.
Non, mais attends, là, on va parler.
Non, mais elle est partie regarder ça à soir.
Moi, je propose qu'on lui laisse expliquer son expérience, puis ensuite, on aborde le sujet. Donc, mais, Fifty Shades of Grey au cinéma.
Ouais, ouais.
Avais-tu lu les livres?
Non, pas du tout.
Okay, fait que toi, t'es rentré là, pas d'attente.
Fifty Shades of Grey. Puis, ben, je t'ai dit tantôt, Eric, que j'aimais bien le cheesiness. Moi, j'aime ça quand c'est cheesy, quand c'est...
Je comprends.
Quand c'est quétaine. J'aime ça, je m'avoue. Mais là, c'était un peu intense, je vous avouerais. C'était
pas si quétaine que
c'était
ça,
une coupe de notch de plus que ce que j'étais habituée, là. C'est, ouais. Donc,
quand ils sortent la graffeuse, là, hein?
T'as-tu vu? Non.
Attends, y'a-tu vraiment une graffeuse dans les livres?
Non,
mais c'est comment l'expérience? Ok, attends un peu.
Non, mais ouais.
Mettons, ok, on s'entend, c'est pas du porn, mais c'est rough, c'est intense. C'est comment d'être assis à côté d'étrangers puis d'écouter ce genre de film-là? Le climat doit être écœurant dans la salle.
C'est vraiment awkward, je t'avouerais. Moi, j'étais avec mon ami. J'avais quelques bancs vides à ma gauche. Puis après ça, il y avait, je pense, deux autres amis qui étaient ensemble, genre. Fait que c'était pas... c'était juste awkward parce que c'était une inconnue, mais sinon, il n'y avait pas...
Il n'y a pas un gars...
C'était pas un vieux crush, genre, qui me faisait peur.
Un vieux bonhomme arrière de toi qui respire comme ça, là.
Non, j'étais pas au cinéma de l'amour, non.
Pareil, dans un sens, là-bas. Ça a l'air populaire, comme film, si on peut dire.
Fifty Shades of Grey? Ben oui, le monde se sont comme rués pour aller voir ça, là.
Dans les salles, là, t'es pas distancé des gens.
Ouais, non, c'est ça. Ouais, on a même attendu la séance d'après, parce que...
What? Attends,
c'était trop fou. Ouais. Mais là, faut bien le voir pour critiquer aussi, tu sais.
Ouais, c'est sûr.
Fait.
Les boys, je pense qu'on est dû pour une soirée de boys.
Ah ouais.
Tu sais, un lundi soir, là, tout seul.
Non, non.
Lundi prochain.
Non, moi, j'ai vu l'expérience de ma femme qui lisait le livre. C'est ça. Puis moi, je demandais, parce que moi, c'est quand elle lit des livres que je lis pas. Explique-moi qu'est-ce qui se passe, je vais sûrement pas lire ça, fait qu'au moins je peux te savoir qu'est-ce que c'est si je prie à dealer avec. Puis ouais, c'est ça, c'était très drôle, puis on s'amusait des fois sur des soirées où ce que je faisais juste lire des passages sur du vin, puis comment est-ce qu'était le film finalement, il était bon.
Si t'avais une cote à donner à ce film là, tu sais,
sur 366.
Mettons, si t'avais à donner comment qu'on va appeler ça? Sur une échelle de 0 à 5 gag ball, tu lui donnes combien?
Gag ball?
C'est l'os qu'André, faut qu'il le décrive. Mais non, c'est André qu'il faut qu'il le décrive.
Piégé par ma propre bague.
Non, elle a refusé.
Non, mais c'est bien, c'est mauvais, c'est...
Bof. Moi, j'ai pas tant trippé. C'est vrai que c'était cute. Il y avait des bouts qui étaient vraiment cheesy, puis j'étais comme « Ah! » Mais sinon, moi, j'ai pas accroché. J'ai vraiment pas accroché. Je parle-tu trop fort? J'ai comme l'impression d'être dans le micro.
Non, toi, t'es correct. Mais il faut que tu sois dans le micro. Juste pas dans le micro, là, mais... Ben, OK, fait que Fifty Shades of Grey.
Ouais. Non, c'est...
Fait d'hiver, apparemment qu'il y a une bouteille de vin de Fifty Shades of Grey aussi.
Il y a bien des produits.
Je l'ai comme découvert le 14 sur Instagram où tout le monde avait une calisse de bouteilles de Fifty Shades of Grey. Là. Puis moi, tout le monde l'affichait en même temps. Là.
Moi, j'aimerais ça faire un petit shout-out à un de nos auditeurs que j'ai vu poster une couple de photos, dont à la Saint-Valentin avec ses bouteilles de vin. Puis c'est des il me fait rire parce que c'est des clos du bois. Fait que lui,
des clos du bois.
J'arrête pas de faire des jokes, moi, puis clos du bois. À soir, c'est lui qui s'est lancé Frenchie sa bouteille. C'est Baldock. C'est son
on
nom.
Le salue, c'est et, drôle ça.
On s'écoute, là. Fait que peut-être pas live, mais il est dans l'autre.
Excellent, ben salut Baldock.
Baldock, clos du bois, ils sont peut-être en train de nous écouter ensemble à soir, on sait pas. Fait que c'était juste ça.
Merci.
Merci. La bouteille de vin.
Avais-tu complété pour Fifty Shades of Grey ou tu voulais rajouter...
Pour Fifty Shades of Grey, ouais, mais j'aimerais juste dire que je me suis rattrapée.
Ok, tu t'es rattrapée.
Je me suis rattrapée parce que ça m'a vraiment laissée sur ma faim cinématographiquement par là. Fait que j'étais voir Kingsman Secret Service.
Yes, fucking bon.
J'étais vraiment restée trop sur ma soif puis j'ai vraiment été servie avec Kingsman. C'était vraiment hot. En tout cas, j'ai bien aimé.
J'approuve.
Ouais.
Fait que toi, t'es allé voir aussi.
Non, mais moi, je veux y aller. Fait que personne, on dit rien là-dessus.
Ah, OK.
Mais...
C'est vraiment triste non. à la fin, hein, quand...
Ah! Oh!
Elle mange la graffe dans le front.
Mauvais film, Eric.
Ouais, c'est ça.
Pis c'est pas dans le front.
Oh!
Donc...
Fait que sur ça, c'est tout. Puis toi, Noémie? Merci. Ah, ben moi, écoute, je voulais voir ce film-là, mais il faisait trop frais, fait que je suis pas sortie. Non, mais c'était la Saint-Valentin, hein, fait que... Restez cosy chez nous. Voilà.
C'est correct, ça.
À pas écouter ouais. Fifty Shades of Grey.
À pas écouter Fifty Shades of Grey. Par contre, moi aussi, je dois avouer quelque chose, là, j'avais pas vu encore, mais j'avais pas vu Captain America 2. Je sais, Christine, ne me regarde pas ici.
Avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Avec j'avais les initiales dans la tête encore, puis ça m'a fucké.
L'as-tu aimé?
Ça serait plus ouais,
ouais, moi, j'ai bien aimé, moi aussi.
Jean-Claude Van Damme, je dis ça de même.
Mais j'étais vraiment surprise. Moi, j'avais aucune idée que... Georges Saint-Pierre était dedans. À un moment donné, il commence à parler, je fais...
Ça tombe bien, parce que Georges Saint-Pierre aussi, il avait aucune idée qu'il était dans le film.
Mais lui, quand il parle, il fait... Hein? Après...
J'étais allé lire le wiki, puis j'ai fait, attends, il est québécois, ce personnage-là? Non, non, il est français de France, puis son nom, on prend un québécois.
C'est pareil. Mais,
c'est pareil, ils ont
ben
le même
oui,
accent.
Le même accent.
Personne va s'en rendre.
Fait que dans le fond, Captain America, Winter Soldier,
ouais,
c'était bien?
Excellent, j'ai aimé. Fait que là, j'ai rattrapé un peu les Marvel. Là. Mais je suis pas X-Men que les Avengers, tout ça, donc, mais là, ça y est, Christine, c'est beau.
Avengers, la série Avengers, tout ça, c'est, ouais. Ça a son charme quand même.
Oui, exact.
Surtout maintenant avec Spider-Man qui va être dedans.
Ouais.
On va pouvoir récupérer un peu.
C'est vrai, on a parlé au dernier show, puis je suis pas habitué, on a fait deux shows back-à-back en une semaine.
C'est comme bizarre, là, je suis tout désynchronisé. Là. Ben écoute, merci beaucoup. Ben moi, c'était mon actualité, c'était Kingsman aussi, puis j'avais plein de spoilers à donner, fait que, écoute, je vais sortir ma liste. Non, mais en gros, Kingsman, si je peux résumer ça, puis écoute, Christine, permets-toi d'interagir, mais il y a des films maintenant, puis il y a une tendance dans les dernières années où ils vont te montrer les meilleurs moments d'un film dans les bandes-annonces, et Kingsman, c'est pas ça. Pis c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils t'ont montré des bons bouts dans la bande-annonce, mais t'as encore beaucoup de surprises au cinéma, c'est drôle, c'est le fun, puis allez le voir.
Puis il y a Colin Firth.
Certainement.
C'est juste pour lui.
Il bégaye pas.
Ouais!
Mais c'est un joke film incroyable, allez le regarder, moi j'ai trippé bien raide là-dessus, très honnêtement. Puis, ça faisait un petit bout, je vais aller la regarder. Puis, sinon, mon autre actualité, c'était SNL 40. Mais ça, on a assez fait le tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une courte pause de 5 minutes. On va vous revenir avec le sujet principal. Donc, on va parler de Festiomuse. Donc, regardez-vous pas comme ça. Vous êtes très au courant. Vous avez reçu le plan, même si vous ne l'avez pas lu. Là. Mais on revient dans 5 minutes. À bientôt. Donc, de retour de la courte pause, Noémie.
Eh hey, oui!
Christine.
Salut!
Eric.
André.
C'est moi, ça. Milter.
Oui. Ah, oh. Non.
T'as brisé la chaîne, fallait que tu nommes quelqu'un d'autre.
Ouais, mais gars, sinon on finira plus, Chris. Tu sais, hey.
Merci. Tu pouvais bien pas avoir d'audio, toi, pendant
l'actualité. Dans la gang, ça, gars.
Calvaus. Bon. Festiomuse.
Oui.
Ben, premièrement, vous êtes qui, vous? Vous êtes autour de la table, puis on parle depuis tout à l'heure, mais les gens ne vous connaissent pas, donc je vais vous donner la tâche très, très intimidante de vous présenter à des micros. Donc, vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous sortez d'où?
Ben, on est deux étudiantes en muséologie.
OK.
Moi, je suis à l'UdeM, puis Noémie est à l'UQAM. Noémie, ben, je veux pas parler pour toi. Tu peux te présenter, Christine. Je vais m'occuper de cette partie pour moi.
On pourrait faire, tu sais, les activités de team building, là, tu sais. Quelqu'un présente l'autre.
Mais, fait que, ouais, c'est ça. Fait que je suis en muséologie à l'UdeM, à la maîtrise, puis deuxième année. Donc j'étais au début de mon mémoire, mon TD. Donc, c'est pas mal ça. Je travaille à temps partiel dans une compagnie de jeux vidéo, côté plus administratif, par exemple. Malheureusement, j'ai pas tant de skills artistiques, malgré mes nombreux efforts. Mais, mais donc, voilà.
Qu'est-ce que t'as fait avant muséologie, Christine?
Ah! Bonne question, Noémie!
Ben, moi, je m'assois puis j'ai... Ah, ben,
il va en profiter, là,
il s'anime tout seul. On est là. C'est bon. Pourquoi qu'on est là? Parle les micros, puis...
J'ai fait mon bac en anthropologie sociale et culturelle à l'Université Laval à Québec. Puis, puis voilà. Puis après ça, ça me tentait de changer d'air, puis de faire quelque chose un peu plus pratique plutôt que théorique. Fait que je me suis dit, la muséologie, pourquoi pas? Puis Montréal, changer d'air.
Là, tu mentionnes plus pratique que théorique. Là, on parle d'entrepôt puis de muséologie. Donc, la muséologie est beaucoup plus pratique que théorique?
Ben, boy! Ouais,
c'est ça. Attends, est-ce que je veux aller là dans la conversation?
Pas sûr, tu veux pas rentrer là-dedans.
Pas sûr!
Okay.
Mais je peux juste limiter ça en disant que la maîtrise conjointe, en fait, puis quand même de M, c'est une maîtrise professionnelle.
Okay.
Donc, il y a un stage, il y a des travaux pratiques. Ouais.
Pour les gens qui nous écoutent en ligne, vous le voyez, mais les gens qui viennent de télécharger l'épisode, il y avait des guillemets ici présents. C'est très subtil, mais on va les inclure.
Donc voilà.
Ben avant, juste mettre de quoi au clair, parce qu'on a eu l'expérience avec un biarologue. Là. Y a-t-il un terrain professionnel de muséologie que vous voulez pas piler dessus en ce moment? Ou...
Des
pieds de le chef muséologue de l'UDM qui aime ça que ça soit bien parlé d'eux, puis il veut pas que...
C'est vrai ça. Mais Eric apporte une question intéressante. Y a-tu comme un code d'éthique que vous devez respecter puis que je dois pas vous amener dans certains chemins ce soir?
Parce que Milter, il est là. Puis on
un ordre professionnel.
C'est juste pour Milter. Non, il y a pas d'ordre professionnel. Fait qu'il y a pas de code d'éthique officiel, disons.
Il y a un code d'éthique de musée. Mais
ouais,
de...
non, c'est ça.
Mais en dehors du musée, c'est correct.
Pas de profession.
OK. D'accord.
Ils sont libres de faire les choix de vie qu'ils veulent.
Exactement.
Même, ça sonne vraiment...
Ben, c'est ça.
Ça va être un bon show.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de standard dans le job. Pas n'importe qui peut faire ça, mais je veux dire,
n'importe quel type
de personne, dans un sens que la formation, y a pas, on ne prend pas cet agent de monde-là, ou j'imagine.
Non,
c'est
non. Ça peut être...
N'importe qui est passionné de ça peut faire...
En fait, c'est que t'as une accréditation d'un ordre professionnel, mais n'importe qui est dans un domaine en communication, en gestion, en anthropologie, en archéologie...
En bio.
Ben, tout le côté science
design.
Qu'on oublie souvent.
Eux en ont un, fait que...
Non, mais je veux dire, ils travaillent dans un musée, c'est comme un terrain, d'une certaine manière. C'est tous les différents champs, c'est multidisciplinaire.
Parce qu'en réalité, là, dans un musée, Milter, il y a aussi... des gens à la réception, des concierges,
oui,
des
musiciens. J'ai passé 2 ans à peu près, mes midis au complet, au Musée des Beaux-Arts.
Qu'est-ce que tu faisais?
Je passais le temps parce que j'allais à l'Académie du design juste à côté, fait que j'allais là, puis je prenais de l'air entre une petite marche, puis là, j'allais chiller au musée, disons. Puis,
C'est cool que t'allais chiller là,
vraiment.
Ouais, mais j'aime ça.
On apprend des choses sur
Il fait chaud, ben ouais. Puis, mais j'étudie en art.
Ça clash avec les Tug Life de tantôt.
Non, mais c'était pas voulu. C'était une erreur de parcours.
Sous toute cette couche
d'internet,
se cache la culture de Milter.
Ouais. J'adore l'art sous toutes ses formes. Fait que ce soit des Tug Life, des gars qui se chient sur le chest ou des toiles, j'aime ça. Faut que tu vois ça d'une façon artistique.
À l'ordre. Donc, on va ramener le bateau dans la bonne direction. Donc, merci Christine. Noémie, dans le fond, toi, là, deux écoles différentes. Uh-huh. Y a-t-il une rivalité? Faites-vous des dance battles, quelque chose de même? Ou c'est...
Oh man, faut trop faire ça! Non, il y a des karaokés, par exemple, qui sont souvent organisés. C'est vrai. Juste ça de même.
Oh shit!
Ouais, non.
Mais non, y a pas de rivalité. En tout cas, j'ai pas l'impression.
Non, ben comme la maîtrise, la maîtrise a été conçue en 87... de pair entre les deux universités, entre UQAM et UDM. Puis c'est, d'une certaine manière, c'est comme une tradition qu'on a toujours été les cohortes une après l'autre ensemble. C'est sûr que quand on choisit notre université d'attache, on a une certaine personnalité qui s'y lie, mais encore là, on l'oublie bien.
En bout de ligne, vous travaillez ensemble. Ben il n'y a une rivalité si grosse que ça, s'il y en a une.
On a pas mal toutes les mêmes cours, ou presque. Fait que...
Puis quand on dit une personnalité qui s'y lie à l'école, quelle est la personnalité de l'UQAM versus l'UDM, t'sais?
Ben, moi, j'ai fait mon bac, mon DSS à l'UQAM aussi, fait que moi, c'est l'idée que ça fait 44 ans que ça existe. Maintenant, c'est rendu 48 ans. Avec l'UQAM, c'est l'Université du Peuple. Ça a été conçu pour vraiment être à même dans la ville, au cœur de la ville, et non sur une butte en haut, un aspect élitiste. c'était pour casser un peu cette vision-là. Je dis pas que maintenant, il y a encore ça, là. Je dis juste que moi, ça a été un des aspects qui m'intéressait beaucoup. Puis, comme je viens de la communication, ben, l'UQAM, c'était pour ça que je suis allée là-dedans.
Génial. Puis du haut de la butte, les émissions se sentent comment?
Le phallus de Montréal.
Ils nous regardent de haut. Puis...
Elle a raison.
C'est tellement vrai!
Hey, moi qui étais gêné qu'on parle de quelqu'un qui défecte sur le chest de l'autre, là on parle de phallus de Montréal. Puis...
Ça, c'est moi qui ai
en fait. En fait, André, c'est mieux. Là. C'est, on va à l'étape.
Non, mais là, c'est comme propre. Tu sais,
des... J'ai choisi mes mots, là, quand même. Non, ben, c'est sûr que l'ambiance est vraiment différente à l'UDM. C'est beaucoup plus... académique, c'est beaucoup moins l'esprit de communauté, je trouve, en tout cas, qui est moins présent qu'à l'UQAM, qui est super fort. Mais ça convient à d'autres types de personnalités aussi. Là. Mm-hmm. C'est vraiment juste... C'est très différent, là.
Chacun qui a ses parcours, tout simplement.
Ouais,
pis...
exact.
Et malgré...
Ouh, ça, c'était proche! C'était beau!
Un rattrapage ouais. L'antique de bière qu'on doit mentionner pour ceux qui écoutent.
Ça a repris 40 minutes, mais je vais enfin le mentionner parce que c'est pas un podcast si je le mentionne pas. Je vais le couper au montage.
Oh. Oh. C'est bon, ça va savoir. Ouais.
Not! Donc! deux écoles différentes. Vous êtes arrivés ensemble ce soir, donc vous vous connaissez. Vous avez monté un projet ensemble. Vous vous êtes rencontrés sous quel contexte? C'est...
On s'est rencontrés...
Vous êtes allé écouter un cours dans l'école de l'autre, puis là, vous avez fait comment, mon Dieu?
Ben, ça ressemble à ça, mais c'était un cours à Québec, en fait.
OK. Fait que vous autres, la distance, ça vous
non.
dérange pas,
non,
hein?
Non, c'est partout sa province. Pas du tout. C'était un cours... pour ceux qui connaissent, c'était un cours entre le CELAT, qui est un centre de recherche, puis le Musée de la civilisation à Québec. Puis il y avait
déjà
des
allé
étudiants.
Là-bas, je dis ça de même.
Prendre l'air?
Ouais. Il était déjà allé à Québec.
Je suis déjà allé à celle d'Ottawa. Je suis allé souvent à Québec aussi. C'est juste pour plugger des musées que je suis allé. J'ai fait une coupe. Là,
excellent. Ben, il va falloir que tu le fasses. Ouais, c'est un must.
Ouais, okay. Checker bon. Ça.
Le CELAT,
là? Ouais, l'autre.
L'autre, là. Le musée de la civilisation. Les musées de la civilisation. Ouais. Puis donc c'est ça, c'était un cours, dis-je. Ouais. Qui était conjoint entre les deux institutions. Puis, grosso modo, il y avait des étudiants d'un peu partout à travers la province, de l'UQO, de l'UQTR, de UQAM, UDM, ULAVAL.
C'était ouvert à tous.
C'était ouvert à tous, pour autant baccalauréat, maîtrise, doctorat. Donc, on s'est vraiment juste tout ramassé là.
Puis, en fait, c'était un cours qui était intensif pendant une semaine. Puis c'est comme un cours d'été que tu peux être crédité ou non. T'sais, c'est une formation de plus que t'as, puis le sujet était assez...
Mais attends, t'as le choix de faire le cours puis d'être crédité ou de le faire puis de pas l'être?
Exact. Parce que tu peux être professionnel.
Attends,
qui ça le fera pas créditer? T'sais, t'as le choix, tu prends le crédit
plus. Quel est l'avantage de ne pas être crédité?
Ok, mais si t'es positif, pourquoi tu vas là?
Ben parce que c'est une formation de plus, parce que c'est une ouverture.
Parce que t'es déjà en train de travailler, tu veux dire, dans le fond, comme si t'es déjà là-dedans, puis c'est un ajout.
Ça ajoute à ta formation.
Me demandais, là, je te dis.
La formation continue.
Mais même là, pourquoi qu'ils prennent pas le crédit à leur dossier pareil, ça leur fait ça de plus, j'imagine,
parce
non?
Parce que tu payes en plus pour ton crédit, puis tu rentres, puis
les affaires d'administration.
Puis étudiant libre, ou X, Y, Z.
Ok, je comprenais juste pas le but, pas le prendre, si tu le fais, tu sais, c'est...
J'étais aussi perplexe de mon côté.
C'est du monde de même.
Mais cool!
Ben, pour
cool,
te dire, il n'y en avait pas tant que ça.
Ouais, non, ben c'est ça.
Il y avait juste un gars, puis il était bien bizarre. Tu sais.
C'était toi. Non. T'en rappelles pas.
Il allait prendre l'air. Puis...
C'est pour ça que.
Ta foi à Québec, là. Ouais. Fait que c'est ça, on s'est rencontrés là. Puis finalement, moi, je commençais la maîtrise le septembre d'après, quelques mois après. Puis Noémie, je pense que t'avais déjà commencé depuis... T'étais à la fin?
Ouais, j'étais dans une partie de mon parcours. Okay. On va tout ça de même.
Puis finalement, on s'est revus tout le monde ensemble à Musée au Mix, Québec, en 2013, au MCQ, au Musée de la civilisation.
Mm-hmm. Musée au Mix.
Ouais.
Oh, aparté.
Non, mais c'est parce que là, tu sais, c'est parce qu'on drop beaucoup de, tu sais, l'UQO, le TR, puis la SAS, là. Non, non, mais je sais pas, là, mais il y a beaucoup, y a beaucoup d'acronymes. Là, ouais, ouais. Là, là, il y en a un que ça ressemble à un vrai mot, fait que je vais quand même élaborer là-dessus. Donc, Muséomix, c'est quoi?
C'est un acronyme, tout ça?
Oui,
non.
C'est...
Oh, OK. Non, non, ben, j'étais tabarnak.
Les méthodes d'usinage de...
Hey, non, ça peut être profond, là.
Ben, en fait, Muséomix, c'est un concept qui vient de l'Europe, qui est l'idée de faire rentrer la technologie au sein des musées pour élaborer des prototypes de médiation. Donc, pendant une fin de semaine, pendant 3 jours, il y a à peu près une communauté de 80 personnes qui rentrent dans le musée, qui prennent le musée d'assaut, puis qui élaborent en équipe, en co-création, des prototypes qui vont servir. Donc, le premier qu'il y a eu à Québec, ben, en Amérique du Nord, c'était au Musée de la Civilisation à Québec. Puis, il y avait, en fait, c'est autant du monde en communication, en médiation, en programmation, en informatique. Tu sais, un Fab Lab, en codage. Parce que l'idée, c'est vraiment faire la médiation par les technologies. Donc, c'est soit une application d'iPad, soit que c'est un robot, soit que c'est de la réalité augmentée, peu importe. Puis, c'est ce qui est difficile, c'est que c'est de le faire en un petit peu de temps. Puis quand tu connais pas ton monde non plus, puis quand tu connais même pas ton terrain de jeu non plus. T'sais.
Donc, grosso modo, c'est que c'est vraiment un événement qui tourne autour de la technologie, ouais. du numérique dans le musée.
Comme des exemples qu'il y a eu dans plusieurs... En tout cas, ça a commencé à Paris, ça a commencé au musée d'art décoratif, puis en tout cas, plein d'autres musées. Puis il y en a un qui, pour illustrer un peu c'est quoi Muséomix, moi je prends toujours un exemple, c'est comme un discours avec une stèle écrit, un discours politique, le premier discours politique écrit qui a jamais été écrit, puis c'est sur une pierre, puis c'est dans une pièce, puis tout est blanche, puis il n'y a rien. Mais le monde, quand tu rentres dans cette pièce-là, tu ne sens pas très bien ce que ça veut dire, pourtant c'est quelque chose qui est d'un poids immense dans le point de vue de l'humanité, de dire que c'est le premier discours politique. Puis à chaque fois, eux, qu'est-ce qu'ils ont conçu, cette équipe-là, c'est qu'à chaque fois qu'ils faisaient un pas dans la salle, tu remontais le temps, puis ça déclenchait un senseur qui, lui, il donnait un discours connu. Tu sais, comme si, mettons, c'est Obama... ensuite, Martin Luther King, tu continues, puis plus que tu avances, plus que tu arrives, puis tu dis tout ça, ça a été inspiré grâce à ce premier texte-là écrit.
Fait que dans le fond, c'est comment augmenter l'impact de l'expérience.
Ouais.
Ouais.
Hein, okay.
Ouais.
Okay.
Ouais.
Fait que dans le fond, c'est niaiseux, mais un des premiers à faire à sortir de là, ça doit être les gens d'écouteurs quand. Tu rentres dans le musée, ça doit être comme la première idée de base ou presque qui est sortie de ces genres de concepts-là, en quelque part, si on peut
mais
dire.
Mais y a-t-il encore la place pour l'audio guide?
Moi, je pense que oui.
Ça, c'était pour couper des jobs au début, là. Ça plate un peu, là. Non,
c'est pour une expérience pareil, autonome. C'est un autre quand feeling. Quand t'as pas envie d'écouter quelqu'un à travers une visite d'exposition.
1h30.
Ouais. Ben moi, je vais tout seul, puis je lis.
En tout cas, c'est un complément ouais. Dans la lecture. C'est conçu, ces éléments-là, faites vraiment distincts. Fait que tu peux prendre autant la visite guidée, l'audio guide, ou juste être anonyme dans ta visite, puis tu vas avoir plein de choses qui vont se mélanger.
Dans le fond, vous autres, vous avez participé à Muséomix. On va pouvoir peut-être plus élaborer dans le concept en revenant plus tard. Mais... ça vous a inspiré, c'est ça qui vous a passé? Festiomuse, Muséomix...
Oui. Le lien s'est fait, en fait, dans l'expérience de tout ça. C'est vraiment... c'était la fébrilité, c'était l'intensité, c'était... Tu sais, c'est 3 jours pour développer des prototypes qu'ils ont, là. Fait qu'ils n'ont pas de temps à perdre, puis c'est vraiment un... C'est un marathon, là. Ça va vite, puis c'était quelque chose qu'on voulait reprendre pour booster la créativité, puis ramener ça à notre domaine propre de muséologie. T'sais, là, c'était surtout le numérique, avec les programmeurs, les codeurs, puis c'était surtout des professionnels. Puis on s'est dit, en revoyant tous nos amis qu'on avait vus dans notre cours auparavant, comment ça se fait que ça prend un événement extérieur à la muséologie pour qu'on se revoie, puis qu'on puisse se jaser, puis parler tout le monde ensemble, puis savoir qu'est-ce que tout le monde fait. Fait que ça a comme germé à partir de là.
Oui, parce qu'il y avait un besoin à combler. C'est que vraiment, les étudiants en muséologie, faut le dire en premier, la muséologie s'enseigne dans 12 programmes. Je veux dire avec le terme muséologie, là, parce que si on fait des programmes connexes à la muséologie, on rentre dans une autre gamique. Mais dans 12 programmes universitaires, cégep, peu importe, dans la province. Sauf qu'il n'y a rien qui nous réunit tous, puis il n'y a rien qui a été créé, en tout cas jusqu'à date avec Festiomuse, qui peut être une un moyen de nous rassembler. Puis nous, l'effet, c'était qu'après qu'on s'était rencontrés dans différents événements comme ça, ponctuels, sans qu'on ait, tu sais, vraiment voulu se revoir là, mais ça a donné juste comme ça, on s'est posé la question, mais pourquoi on revoit pas plus souvent tel ou X ou telle autre personne, ou tu sais, pourquoi il n'y a pas rien qui existe par rapport à ça? Puis c'est là qu'est venue vraiment l'idée de, ben, il faudrait vraiment avoir quelque chose qui est récurrent, un genre de rentrer ça dans une tradition en muséologie pour tous les étudiants en muséologie, qu'une fois par année, on se réunit tous à quelque part. Puis là, ça a découlé avec Festiomuse. Puis on a peaufiné le concept, on a peaufiné l'idée de travailler, qu'on voudrait être dans un musée, puis les équipes, puis la co-création, puis la collaboration. Mm.
Mais un des points que vous avez mentionné, dans le fond, là, c'est que Muséomix, dans le fond, c'est l'aspect très professionnel, c'est des personnes déjà établies.
Ouais.
Festiomuse, dans le fond...
C'est propre aux étudiants.
Ouais.
Puis on... Étudiants, est-ce qu'il y a une limite à la limite? Est-ce qu'un étudiant de première année, un étudiant de cinquième... Je dis cinquième année, il y a-t-il une cinquième année? Mais un étudiant plus avancé dans son parcours...
Mais vous l'avez bon quand t'es rendu là.
Est-ce qu'il y a une limite ou c'est ouvert à tous?
Ben, nous, on a limité ça à un an après la diplomation.
OK.
Pour vraiment laisser la chance.
Ah,
aux,
c'est vrai, on a fait ça.
Laisser la chance. Out. mais ouais, c'est ça. Donc, on a limité ça à ça. Peu importe si ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20.
Pourquoi tu me regardes en disant ça?
Je sais pas.
Non, mais sinon, quelqu'un qui vient de commencer là, un certificat, une mineure en muséologie, ou quelqu'un qui a peaufiné son doctorat, puis que ça fait comme 10 ans qu'il est là-dedans, on les prend tous. Parce que l'idée, c'est vraiment juste l'intérêt d'être rassemblés ensemble. Puis ensuite, c'est d'une certaine manière, c'est de donner notre point de vue de la relève sur un musée, sur un milieu qui est déjà établi, sur une profession, puis sur un lieu. Donc, c'est vraiment une chance aussi pour les musées autres de nous recevoir, parce que on est une trentaine de participants, mais plus avec l'organisation, on est comme une 50, 60, tu sais, on top le 60 personnes qui est juste du monde qui veulent être là par leur intérêt, par leur volonté, puis qui veulent donner, qui ont le goût de partager le peu de savoir qu'on a, mais au moins notre nouvelle vision qu'on a, tu sais. Donc, le musée haute, il est tout à fait...
C'est voir les nouvelles visions aussi, si on peut le dire, du domaine dans l'avenir. Puis...
Oui.
Non, c'est sûr.
Mais si on prend un point de vue académique, la muséologie, dans le fond, là, parce que là, vous avez l'air à dire qu'il y a plusieurs branches. On va y aller de haut niveau, là, muséologie pour le commun des mortels ou la personne qui nous écoute puis qui connaît aucunement ça. On décrit ça comment, cette bébête-là? Ça fait quoi de la muséologie, dans le fond?
Ben, grosso modo, c'est une discipline qui étudie le domaine muséal en général. Donc, ça se décline par plusieurs branches qu'on appelle, dans le jargon, des fonctions muséales. Donc, t'as économique, donc tout ce qui touche le financement, tout ça. T'as l'exposition, la médiation...
l'aspect de la gestion. Ça dépend c'est quel courant qu'on prend, mais si on cite Élise Dubuc avec les métafonctions en muséologie, on peut être dans ce sens-là. Mais gars, je vais être très honnête avec toi, André. Là.
Mm-hmm.
Moi, je suis muséologue maintenant. J'ai diplômé, okay. J'ai déposé, puis je sais même pas encore ce que ça veut dire, muséologue.
Mais là,
faut pas me dire ça, parce que dans ma tête, là, j'ai juste, tu sais, dans Seinfeld, George qui se trouve job à un moment donné, il a comme pas trop idée de ce qu'il fait, mais qu'en réalité, il est payé. Puis,
puis son boss le trouve super bon en plus.
Non, mais attends, je vais m'expliquer.
Okay,
je sais exactement ce que moi je vais faire, mais je veux dire, être muséologue, ça s'applique à tellement de champs, à tellement de manières, tellement d'intérêts, puis de disciplines différentes, que c'est comme teinter ta première formation habituellement. Quand tu es rendu au cycle supérieur, puis que la maîtrise, ça teinte plus mon premier aspect. Mais sinon, je veux dire, c'est moi qui vais donner le sens à ce terme-là.
OK.
C'est plus de ce point de vue-là.
J'ai juste une question, parce que tu dis que c'est tellement large.
Ouais.
T'es pas archéologue.
Non.
Mais quelqu'un qui veut faire une présentation sur une exposition d'archéologie, est-ce qu'il peut avoir des archéologues qui sont muséologues?
Oui.
Puis toi, t'es quoi à eux?
Ben,
parce que toi, est-ce que toi, t'es-tu dans l'entremise de ces gens-là qui font des présentations? Tu fais-tu reprocher par quelqu'un qui veut faire une exposition, ou tu cherches des personnes à faire des expositions pour? Ou...
Ça peut être toutes ces réponses.
C'est
ça qui est difficile. Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas d'ordre professionnel. Fait qu'on n'a pas une liste de tâches précises. à suivre, tu sais. C'est vraiment selon, selon tes stages, selon tes travaux pratiques, selon tes intérêts que tu diriges ta spécialisation en muséologie. Donc, c'est sûr que, comme Noémie a dit, c'est teinté de ta formation précédente avant celle de muséologie.
Puis tu vois, moi je suis une fille.
Ça, je comprends. Justement, c'est comme un dernier step que tu choisis à la fin, si tu veux.
Une spécialisation. C'est ça. Ou...
Exact.
Ouais, mais ça peut être le contraire. Il y en a qui commencent là-dedans aussi.
Puis qu'après, ils trouvent
un ça, c'est la personne qui adorait les panneaux à trois côtés dans la petite école là, quand tu fais ton exposition.
Ah ouais.
Mais... il y a un nom, ça s'appelle un triplet, c'est ça?
J'avais pas... Une triplet, ouais.
Je me rappelle juste, il faut que tu présentes ça à l'école, puis tu as une exposition à l'école, tu présentes ton projet. Puis...
Fait que dans le fond, je comprends bien, tu sais, il peut avoir, tu sais, une personne pourrait être axée vraiment en recherche, une personne pourrait être axée vraiment mise en scène, un peu comme mettons une pièce de théâtre. Ben, ok, on va mettre le diorama là, on va mettre telle affaire. Puis, t'as quelqu'un qui va faire le financement. Ok, ben, ça va nous prendre tel cash pour aller chercher telle chose. Puis, fait que dans le fond, ça touche quasiment à tout.
Ça touche à tout, hein. Faut juste dire, un musée. Bon, là, il y en a peut-être qui vont pas trop aimer ce que je vais dire, mais un musée, c'est vraiment une entreprise culturelle. Je veux dire, il y a tous les différents comme départements qui sont à l'intérieur d'un musée. Puis moi, personnellement, je conçois beaucoup plus un musée comme un organisme vivant. C'est vraiment... faut se dire que toutes les fonctions sont comme le corps humain. Là. Je veux dire, le cœur, les poumons, moi, je les associe. T'en enlèves un organe vital, là, regarde, les autres fonctionnent plus. Fait que, tu sais, je pense que c'est de même qu'il faut entrevoir la muséologie aussi puis être à l'interne d'un musée. C'est que le département d'éducation puis d'exposition, souvent, on va dire, on va entendre des choses, « Ah, ça se parle pas trop. » C'est pas vrai. En tout cas, ça dépend des musées. Puis les deux se vaut autant. Même chose que l'administration. Le musée pourrait pas vivre s'il n'y aurait pas des personnes dans la comptabilité non plus. Ils sont pas muséologues, on s'entend, hein? Je veux dire, c'est des comptables, des choses comme ça, mais dans les grandes fonctions comme exposition, éducation, le service de la médiation, le service au public aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup développé. Moi, je suis en communication puis en gestion, puis moi, ce qui m'intéresse, c'est le musée dans la société, en fait. C'est un acteur social, mais sur une big picture. T'sais, c'est pas l'interne de musée. Puis là, on parle depuis tantôt de à l'interne de musée, mais aussi, on peut voir comment que le musée est dans la société. Ça, c'est un autre champ de recherche, un autre volet qui existe.
Ben, il y a un, puis le PR, puis le.
Ouais, il est important dans SimCity.
Mais vous autres, vous avez-tu à dealer directement, mettons, avec des artistes qui veulent exposer ou des archéologues, puis des personnes de même? En gros, quand je veux dire, connaissez-vous Indiana Jones personnellement?
Non, mais personnellement,
ben, ça serait cool. Ça serait
mais il
cool.
Y a des Indiana Jones.
Mais tu sais, je veux dire, du monde de même.
Oh, il y en a,
ben
oui.
Mais
oui.
C'est vous autres qu'il faut qu'il deal avec ce monde-là, justement, pour préparer son exposition ou quoi. Ou ça, c'est du monde comme. Ils vous parlent pas parce que c'est des artistes. Puis,
Ça arrive parce que tu sais, t'as des grands musées où est-ce que, oui, ça peut être une équipe qui est plus réalisation, disons, qui va s'occuper de prendre contact ou. Mais t'as des plus petits musées où est-ce que t'as une personne qui conçoit l'expo, puis t'as une personne qui prend contact avec le collectionneur, puis... Ouais. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment dans quel genre de musée aussi tu te situes, quelle organisation interne qu'il y a. Donc...
Parce que, tu sais, au Québec, il y a 420 institutions muséales, là. Ça, c'est autant un centre d'exposition...
420?
Ouais.
C'est quand même
c'est
beaucoup.
Plus que...
C'est un beau chiffre.
Il y a plus d'institutions muséales que de fromages québécois, finalement?
Ouais.
Non.
Non, c'est ça!
Fuck!
Pas la
fuck!
Moi, j'ai juste tout de pensé à son Flapping Bird.
Flappy Bird. MLG Flappy Bird 420. Mais j'avoue, c'est un nom. C'est beaucoup.
Ben, ouais, c'est beaucoup. Puis, bon, regarde, c'est aussi quelque chose qui bouge aussi quand même beaucoup. Il y en a peut-être beaucoup qui vont ouvrir, mais peut-être quelques-uns qui vont... fusionner avec d'autres. On parle avec
Vous parlez, ça compte-tu une genre simple salle d'exposition?
Oui, ça peut.
OK, c'est ça. Je m'en ai dit, je sais même pas s'il y a 420 villes.
C'est des institutions, c'est ça.
Okay.
Elle a dit, c'est pas des musées tels quels, c'est des gros...
Non, c'est ça, ouais. Institution. Ouais, ouais. C'est ça le terme qu'il faut.
C'est un bureau, là.
Ben, comme un centre d'interprétation ou un centre d'exposition, la CEPAC, les centres d'interprétation, sont rentrés dans une institution muséale.
Fait que le parc du Mont Harford est rentré dans l'institution muséale.
Le centre d'interprétation du parc du Mont Harford.
Fait que c'est comme spécifique. Ça veut dire quoi, ça?
De quoi?
Mais que c'est devenu le
centre d'interprétation.
Ouais, c'est quoi qui interprète?
Mais c'est parce que c'est. Ben, mettons.
Interprète de l'art.
Ben, habituellement, c'est plus le lieu. Comme, mettons, Parc Canada. Genre. Les Parcs Canada, c'est des institutions muséales, puis c'est sur des parcs nationaux qui existent. Puis ils ont toujours un volet associé à la recherche puis à l'éducation pour le public. Donc, c'est de vulgariser ton endroit, le parc du Bic.
Comme le calvaire d'Oka, dans le fond, là, que tu montes, puis il y a des petites maisons, puis là, ils t'expliquent, puis là, t'arrives à la cime, puis il y a comme les vieilles églises, puis...
Ouais.
Fait que dans le fond, c'est de l'interprétation.
Une belle vue au calvaire. Ouais. Moi, j'aime bien le calvaire.
Moi, j'aime bien le fait que tout le monde va en haut, puis là, ils ont mis plein d'efforts, tu sais, t'as comme des toiles.
C'est religieux,
ça. T'arrives en haut, tu regardes le bout, tu fais... Ah, ça a pris 2 heures monter, hein. Puis personne ne regarde les maisons, puis il redescend en bas, je suis comme fuck. Ben, en fait, le temps au moins de regarder.
Parce que tu regardes le trajet de Jésus, là, c'est pas mal ça que c'est, là, le calvaire, je me trompe pas.
Jésus et son fameux passage
c'est
à Oka.
Ça,
son combat, hein.
Jésus World Tour, quand il est venu à Oka.
Mais je pense il y a des chemins de la croix comme ça un peu partout au Québec. C'est, aussi,
certainement.
C'est tous des musées, c'est des institutions. je pense pas qu'elle ait aimé ça.
je trouve ça très drôle.
Ok, fait continuer, excuse.
Non, c'est correct. Ben, on dit quoi? Je suis un peu perdu.
On essayait d'expliquer qu'est-ce que c'était ça. La muséologie, mais je pense qu'on a fait le tour un peu. Mais en gros.
C'est pas juste un chemin de la croix.
Non, c'est une belle conclusion, ça. La muséologie, c'est pas juste un chemin de la croix.
Fait que vous avez créé Festiomuse pour répondre à certains besoins de l'industrie. Tu sais, là, vous mentionnez justement, il y a 420 institutions, il y a ci, il y a ça, il y a des gens dans plusieurs disciplines. Mm-hmm. C'est pas nécessairement uniquement axé professionnel. C'est quoi exactement Festiomuse?
C'est. Je vais briser la glace. C'est un marathon créatif, on va dire ça comme ça. C'est vraiment. Ça se veut un laboratoire créatif pour arriver à des propositions de solutions, en fait, de problématiques ou de chantiers qu'on appelle, qui sont proposés par le musée. Donc, c'est différentes fonctions dont on parlait tantôt. Donc, sur soit des chantiers sur l'exposition, la médiation, donc toute l'expérience du public ou une thématique d'exposition ou comment revoir les objets qui sont exposés dans une exposition, des vitrines qui sont désuètes, qui voudraient bien changer mais qui savent pas comment parce qu'il y a trop de contraintes locales, sur place.
Mm-hmm.
De faisabilité.
Ben, t'sais, ouais. J'ai bien aimé un des chantiers que vous présentiez cette année, t'sais, c'est que une des difficultés, dans le fond, le musée, c'est le musée de la culture populaire de Trois-Rivières, c'est
musée
ça?
Québécois de culture populaire de
Trois-Rivières. Et voilà. Exact. Donc là, moi, dans le fond, je suis allé là-bas pour prendre certaines photos, regarder un peu l'événement.
Qui sont sur la page du collectif.
Et la page de Festiomuse aussi également.
Exact. Très belle photo.
Ben, merci. C'est merci bien. Beaucoup. Dans le fond, je suis rentré à l'événement. Mais...
Tu ne comprenais pas c'était quoi?
Ben en fait, je vais être très honnête avec vous, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis, okay. C'est drôle parce qu'il y a un des chantiers qui m'a interpellé beaucoup parce que je me suis stationné, je suis allé à la mauvaise bâtisse.
Tu es allé à la prison?
Je suis allé... Ben non, mais en fait, il y a comme un building comme professionnel corporate gouvernemental à gauche.
Ouais.
Là, je suis ressorti de là, j'étais allé à droite, puis il faisait super froid, puis là, je regardais, j'étais comme, il est où le fucking musée? Puis là, je marchais, j'étais comme, voyons, puis là, un moment donné, ça dit, OK, la prison est par là, puis le musée est par là, mais je me suis dit, je veux pas aller à la prison, moi. Ça. Puis je viens pas de Trois-Rivières. Est-ce que la prison est encore active? Est-ce qu'elle était fermée? Est-ce que...
Et t'as donné accès au musée. Ouais.
Je rentre en dedans, puis là, je fais comme, bon, OK, je pense ici, puis là, je vois votre logo sur une table, je fais, OK, good, j'étais à la bonne place. Puis il y a un des chantiers qui était justement la visibilité du musée de l'extérieur du musée. J'ai fait comme, c'est pas fou, OK, ils travaillent sur des bonnes choses, parce que j'imagine ce musée-là, c'était un des problèmes justement.
Ouais.
Comment fais pour le voir, le trouver, quand tu fais pour y aller? Fait que dans le fond, tu sais, c'était... Moi, j'ai trouvé ça le fun de la manière que vous le faisiez travailler, parce que justement, un des points que vous m'aviez mentionné, c'était pas de contraintes non plus, c'est pas... Les gens sont pas limités par un budget, les gens sont pas limités par de la technologie ou peu importe. C'est plus, on fait un brainstorm puis on lance ça.
Mm-hmm.
Puis ça m'a fait... J'ai trouvé ça moins intimidant quand j'ai vu ce chantier-là. J'ai fait comme, OK, ça peut être quelque chose de super niche ou quelque chose de super accessible que, ben, les gens trouvent pas le fucking musée puis il faut trouver un moyen de le rendre visible. Fait que quand j'ai vu ça, ça a fait comme, OK, c'est moins payé, calme-toi, ça va bien aller, ils vont t'expliquer ce que c'est. T'auras pas l'air trop cave, tu sais, puis le pire, c'est t'arrives là, puis tu fais comme, puis il y a comme une stigmate associée au musée où c'est comme la culture, c'est, ouais. Tu sais, les gens cultivés, puis il faut faire attention, puis je suis arrivé là, puis j'ai vu une gang de flyers dans une salle en train de faire des bricolages, puis des collages, puis des affaires de même, j'ai fait comme, ok, finalement, c'est peut-être pas aussi intimidant que ça, tu sais, puis ça m'a calmé one shot, fait que, le concept, tu sais, quand tu parlais des chantiers, Christine, tu sais, je trouvais ça intéressant, puis je trouve que ça répond bien à des problématiques qui sont pas trop niches non plus. Donc, monsieur, madame, tout le monde, qui en l'occurrence était moi qui arrivais là, ben, tu sais, je suis arrivé un peu comme, hey boy, qu'est-ce qui va se passer? Puis ça
dans
a fait
une
comme.
Tempête,
ok.
En plus.
Ouais, ouais, ça, c'était l'autre.
Mais moi, l'autre ça, côté. C'est, le comparatif est peut-être niaiseux, mais ça me fait penser à. Des gens de, je me souviens même pas c'est quoi le nom, mais des fois dans les jeux vidéo ils font ça, ou dans les chansons il y a des gens de groupes improvisés, c'est comme une gang de musiciens qui se font faire des équipes spéciales, des groupes dans le fond,
ah, des game jams,
vous avez genre 24 heures pour faire une chanson ou un, je veux pas dire un album, mais tu sais, trouver la chanson que vous faites en 24 heures, puis après on fait une compétition ou quelque chose d'amical. Les jeux vidéo ils se font des petites équipes, puis vous avez 48 heures pour créer un jeu d'attitude, ben c'est la seule contrainte.
Ben, t'as sûrement suivi ça, il y en a eu un à Montréal, il y a peut-être 2 semaines avant Festiomuse. Il y a peut-être 3 semaines, il y a eu le Game Jam Montréal, qui s'est déroulé,
j'étais
je pense
même
que c'est
pas
à l'ETS.
Courant, mais c'est le genre d'affaire de même, je savais pas le nom.
Chapeau,
puis...
là, mais il me semble que c'était à l'ETS.
Écoute, l'ETS serait un endroit logique pour ça aussi. D'habitude, ils font les LAN, les affaires de même, donc j'imagine que...
C'est ça.
Mais ça me fait penser à ce genre d'événement-là, si on peut dire.
C'est vraiment ça. Puis, tu sais, on oublie souvent que, oui, musée, c'est comme un lieu de savoir avec un S majuscule, mais tu sais, c'est du monde aussi qui sont confrontés à... Comme on parlait avec Yvon Noël, le directeur du Musée québécois de culture populaire. Ah, ben là, la souffleuse, elle vient de lâcher. Qu'est-ce qu'on fait? OK, ben on s'en va acheter des pelles. Tu sais, c'est aussi simple que... Tu sais, c'est des problèmes quotidiens aussi qui doivent faire face assez régulièrement. Puis les chantiers, c'est aussi ça. C'est des problèmes qui sont confrontés régulièrement, mais que ça demande peut-être... De se plonger peut-être un peu plus profondément dans la problématique, mais de par tous ces problèmes quotidiens-là, ils n'ont pas le temps de se mettre vraiment dans le bain, puis de se laisser aller voir le tout un peu autrement. Donc, nous, on profite, dans le fond, du fait qu'on est encore étudiant, puis pas encore la tête poignée dans ces problématiques-là quotidiennes pour vraiment
quand
offrir.
Quand tu t'habitues
aux
problèmes, tu t'es moins porté à le.
C'est ça, ben t'es comme en action-réaction, tu sais.
Puis quand vous faites ça, c'est quoi vous utilisez, en gros, pendant le Festiomuse, les outils, les choses que vous faites pour régler ces problèmes-là? Y a-tu quelque chose de spécial?
Ben tu sais, en même temps, ça, j'aime ça, ta question, parce que on n'est pas, tu sais, on n'est pas... Y a des techniciens dans la gang, mais on n'est pas... On n'est pas assez outillés, disons, pour créer des prototypes vraiment qui vont se tenir après 3 jours. Je dirais, à part peut-être...
Ouais, c'est pas du produit fini,
non,
si on peut dire
exact.
Tout de suite, c'est ça.
C'est
des concepts.
Ce qu'on est bon dedans, c'est des idées, c'est des concepts. Fait que ce qu'on offre, c'est ça. Fait que c'est vraiment... Les participants... Nous, en tout cas, pour la première édition, on était vraiment focussés sur le fait que c'est le processus pour se rendre à la, disons, la réalisation de ce concept-là, qui est important, et non la réalisation même. Puis, on s'est rendu compte que finalement, c'était super important pour eux. Donc, on a dû mettre à leur disposition toutes sortes de matériel, de la peinture, de la gouache, des bâtons popsicle, des foam core.
N'importe quoi pour
pouvoir patenter quelque chose. T'sais, juste un exemple, l'année dernière, ça s'était déroulé à Pointe-à-Calière, à Montréal. Puis il y a une équipe qui ont patenté une genre de vitrine qui était rétro-éclairée pour vraiment juste... Ils voulaient reconceptualiser les vitrines qui sont un peu partout dans le musée. Pour ceux qui ont été, là, il y a comme des vitrines un peu n'importe où, que ce soit dans les toilettes, dans le hall, dans les corridors, à l'accueil, t'en as partout. Puis leur chantier, c'était de... de revoir un peu comment unifier ces vitrines-là. Puis eux, ils ont dit, ben fuck it, nous on trouve que c'est pas assez, on les trouve laides, les vitrines, fait qu'on va juste les refaire au complet. Puis ils en ont créé un prototype avec du foam core, de la plastine.
Des cure-pipes et des bâtons de popsicle.
Genre.
Quasiment ça, là.
Genre, fait que tu sais, mais ça donnait un bon visuel quand même de qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ces vitrines-là.
Le pire, c'est que tu sais, ayant vu le résultat final de certains chantiers, ça ressemble à
une maquette.
Une grosse. Ben, tu sais, c'est vraiment fucké parce que c'est justement, tu sais, il y a des trucs, là, tu sais, c'est très recherché. Il y en avait, c'était minimaliste. Il y en avait, c'était comme, hey, on a reproduit exactement le chantier qu'on voudrait que ça ait l'air. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment de contraintes. C'est ça que moi qui m'a fait triper, c'est de regarder ça. Puis chaque truc, chaque chantier, tu regardais, puis OK, eux autres, ils ont été très descriptifs. Ils ont écrit un paquet de trucs, puis c'était très, tu sais, analytique. Puis t'en as d'autres que c'est comme, bon, on va connaître un fossile de dinosaure imprimé dans le coin. On va faire l'équivalent d'un genre de truc en marbre peint dans le côté. Puis c'est juste cool à voir. Tu sais, c'est du... c'est quoi le terme que je cherche? Du...
Ben, l'idée des tableaux qu'ils font, là, c'est des mood boards, là. C'est pour vraiment avoir
un feeling.
Ouais, de c'est quoi leur l'idée qu'ils veulent.
L'ambiance sortir. Qu'ils veulent dégager de tout ça.
Parce que il y en a, c'est ça, comme tu disais, André, il y a plein de différents types de mood boards qu'il y avait à la fin, là. Donc, c'était vraiment selon les talents aussi des personnes qui étaient en place, puis qu'ils trouvaient intéressant de mettre un bâton de colle avec des popsicles, puis d'autres qui étaient...
Scrapbooking.
Mais en même
temps,
boom!
La façon que vous le dites, ça me fait penser beaucoup, vu que tout le monde arrive à des affaires différentes, puis c'est pas parce que visuellement, des fois, c'est peut-être moins beau et plus... comment dire ça, détaillé,
développé
genre, ouais, d'une façon, là, mais il y en a que c'est plus artistique de la façon qu'ils vont le présenter, puis ça me fait penser, moi, quand j'étudiais en art, c'était pub et art, dans le fond, ben, tu voyais tout le monde qui arrivait, il y en a un gars, il dessinait super bien, mais il était pourri, exemple, en Photoshop, puis en affaire de même, mais tout le monde avait leur force puis leur faiblesse, mais son idée, même s'il était pas bien exécuté, lui, ses points qu'il amenait, il était plus fort que le gars qui avait mis ça bien beau, bien visuel. Fait que le prof, tu combinais de quoi ensemble. Fait que j'imagine, vous autres aussi, dans le fond, eux autres, ils se font présenter les solutions finales de vous autres, mais ils peuvent combiner aussi après, puis voir, puis dire comme, hey, wow, ça c'est bon, puis...
Ouais.
Tout le monde n'est pas en compétition là-bas.
Non, ben, pas du tout. On voulait vraiment briser l'aspect compétition, en fait.
Parce qu'un game jam, on s'entend qu'à la fin, ils sont en compétition pareil dans un sens.
Ça.
Surtout que je pense qu'ils donnent des prix monétaires là, ou des affaires de même.
C'est
le
jeu.
C'est sûrement. Il fait ça, puis il y aura bien des problèmes, il va se faire résoudre.
Là, ils vont résoudre pour de vrai.
C'est prouvé que ça marche. Ils sont en train de régler ben, des problèmes avec des jams comme ça.
En même temps, le but de Festiomus, c'était de trouver de proposer des solutions au musée, mais c'était aussi et surtout de créer une communauté en muséologie, d'étudiants en muséologie. Puis d'apprendre à se connaître, d'apprendre à travailler ensemble aussi selon les différents programmes. On s'est rendu compte que chaque programme avait sa spécificité. Puis même si on est tous en muséologie, on voit un peu ça différemment, on la vit un peu différemment, différemment, dis-je. Puis c'était vraiment le défi, c'était de mettre tout ce monde-là ensemble, puis les obliger, en fait, leur seule contrainte de la fin de semaine, c'est de créer des équipes multi-institutionnelles qu'on appelle. Fait que t'as, autour d'un seul chantier, t'as une personne de l'UQAM, une personne de l'UDM, une personne de l'UQO, une personne du Collège Montmorency, une personne du de l'Université Laval, puis une personne de l'UQTR. Puis de l'UQO, je l'ai-tu dit?
Tu as dit quoi?
OK. Donc, c'est ça. Donc, tu peux pas avoir deux personnes de la même institution autour d'un chantier pour vraiment briser les effets clics.
Dans le fond, c'est un peu comment je pourrais dire, tu avais dit un team building tantôt, tu faisais une référence, mais c'est un team building du futur de de la muséologie. Là,
ouais,
vous allez tous travailler là-dedans pendant le prochain 20, 30, 40 ans.
Ouais.
Tous bien d'apprendre à vous connaître puis dealer avec vous autres au début puis créer des liens puis des groupes puis.
C'est tellement un petit milieu que... Lequel? Il faut que je pogne dans le coin. Non, mais c'est ça notre premier objectif. C'est ça notre premier objectif. Festiomuse a été créé pour ça, pour vraiment
rapprocher les gens de l'industrie, si on peut appeler ça une industrie.
Oui, moi, j'ai aucun problème qu'on appelle ça comme ça. Mais tu sais, je veux dire, il y en existe beaucoup, là, des choses créatives comme la charrette architecturale, en communication, t'as les jeux de la com, les jeux de la gestion, t'as plein d'affaires, mais c'est toujours un aspect compétitif qui est mis de l'avant. C'est vraiment toujours une université contre l'autre, ou une école contre l'autre, ou peu importe. Puis, Festoomers, c'est vraiment le premier concept, c'est de dire non, non, nous, on veut pas faire ça, on veut pas créer, on veut pas donner un effet encore plus amplifié.
C'est de la coop totale, dans le fond. Là.
Exact.
Ah, c'est le fun, ça. Puis vous autres, votre vision de la muséologie personnelle plus tard, dans 10 ans, là, vous voyez ça comment? Ça va-tu avoir changé beaucoup? Ou...
Est-ce qu'il y a des tendances lourdes, comme là, on parle beaucoup de l'influence du numérique, on parle beaucoup de choses comme ça? Où ça va le musée? Tu sais, je me souviens, on avait pu discuter, puis j'en ai discuté avec certains de vos collègues aussi, mais tu sais, on donne un exemple, on a des expos comme des Star Wars Identities qui commencent à prendre place, où sur la surface, ben oui, ça parle de Jedi, puis de maquettes, puis des trucs comme ça, mais en réalité, on pousse l'utilisateur à faire des choix tout au long de son expo pour qu'il arrive à la fin, puis dans le fond, en toile de fond, il y a le bien puis le mal qui est là un peu, puis la morale des choses. Est-ce que on voit un peu l'utilisation de la culture populaire, t'sais, vous voyez ça comment dans le fond, le musée de 2035, est-ce que les gens se déplacent encore, est-ce qu'on a tout un iPad dans les mains?
Des musées d'Adventure Time, genre.
C'est ça. Est-ce que c'est le musée dont vous êtes le héros, puis finalement tu choisis la pièce, puis tu t'es trompé, puis tu recommences au début?
Ben, il y a des tendances lourdes qui vont arriver en muséologie. Il y a justement le cours du CILAT qu'on avait suivi Christine puis moi à l'époque, c'était vraiment sur le musée et la société, puis la grande transformation qu'elle a à voir, que c'est le troisième lieu, dans le fond c'est l'amalgame entre la bibliothèque, le système d'archives, le musée, un pôle très éducatif, service au public, une audiothèque, j'en prends une.
Grosso modo, c'est que c'est un endroit qui veut de plus en plus être l'endroit de prédilection, comme un deuxième salon, genre. Deuxième salon à l'extérieur de chez vous. Tu sais, que les gens viennent
prendre du temps, puis
chiller, puis juste profiter, travailler.
Ce que tu faisais les midis, là.
Ouais, oui, ben c'est ça. Le goût, c'était passé à
sauf
côté.
Sauf que tout, tu le faisais genre 15 ans avant, tu sais, avant tout le monde.
Mais avez-vous peur? C'est niaiseux, mais on a fait, dans notre épisode qu'on a fait parler de réalité virtuelle, un plus ancien épisode, pas si vieux que ça, mais en tout cas.
Là, 18 heures.
Une couple d'épisodes, là, je me souviens pas le chiffre exact, mais tu sais que le monde, que la muséologie, un moment donné, ça devienne... Tu t'assois chez vous, puis...
Tu mets ton Oculus Rift.
Tu mets ton casque ou quelque chose de même, puis je m'en vais, je clique, puis je choisis mon musée en France que je veux voir, puis... Tu sais que... Avez-vous peur que le monde n'ait plus besoin de se déplacer, si on peut dire, ou...
Moi, non.
Vous pensez que
moi,
le côté...
Moi, je sais que... Moi, je pense pas, parce que...
Parce que si on peut pas y toucher, là, aux affaires, là, on les regarde, tu sais.
Le contact du vrai, là, tu sais, je prends le verre dans ma main, là. Je veux dire, le contact du vrai va toujours
Mais l'agent de sécurité me regarde tout le temps bizarre quand je touche aux affaires. Il y a pas de contact,
quand
c'est ça que je veux dire.
mais je pense, puis écoutez, je vais parler en dehors de mon chapeau, mais j'imagine que... Peu importe le contenant, même si on visite par l'entremise d'un casque de réalité virtuelle, il va quand même falloir des gens comme vous pour faire la conception, pour choisir quelle pièce est en premier, l'information qu'on va révéler ou des choses comme ça. Donc j'imagine qu'effectivement, tu sais, c'est une technologie qui peut être intéressante, mais de la manière
de tranchant,
c'est que ça donne accès à l'information à des gens qui ne l'ont pas. Je fais un parallèle avec Ready Player One, qui est un de mes livres préférés, où les gens vont à l'école dans l'Oasis, sont reliés, ils vont... L'école est gratuite, mais par le biais d'une réalité virtuelle, donc moi, je vois pas ça comme un négatif en tant que tel, l'accès à un musée. Par contre, tant que le musée reste quand même physiquement accessible, voulant dire, tu sais, l'expo... Elle peut être scannée puis projetée en ligne ou des choses comme ça. Tu sais, je me souviens, Apple avec leur QuickTime Visit en 3D qui nous pousse depuis 96 et qui ça n'a jamais marché. Mais...
Ben, juste Google Project, Google Art, qui essaie d'aller visiter tous les musées à travers le monde par la plateforme de Google Art. Ça, c'est...
ça existe présentement, ça.
Oui.
Puis il y a Nintendo là, qui vendent des marques de même, de channels, de visiter des... Je dis marque parce que je trouve que c'est niaiseux Nintendo qui nous vendent
daring un peu.
Mais c'est juste comme... ça a l'air mal fait un peu, mais c'est des genres de puis que t'achètes une visite guidée de quelque chose, là, puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Là,
ah,
c'est...
tu l'achètes?
Ouais, en plus, ça coûte genre 3$ à peu près. Là. C'est pas si, pas si dispendieux que ça.
Moi, je suis curieux de savoir, est-ce qu'ils donnent de l'argent au musée quand ils vendent ça?
J'en ai aucune idée, puis je le voyais, puis je trouvais ça plate, justement à cause que le feeling d'être là, il est pas là. Puis c'est ça, là. T'sais,
déjà, il y a sûrement un marché pour ça, par contre.
Ben, sûrement, s'ils l'ont fait, puis qu'ils n'ont pas fait d'application Twitch, puis qu'ils ont décidé de faire ça, c'est sûrement parce qu'il y a du monde qui le veulent. Hein.
Si tu fais une exposition, puis tu peux juste avoir plus de gens qui peuvent vivre une genre d'expérience, que ce soit dans les deux côtés ou les deux en même temps, tu as quelqu'un qui va vivre une exposition de chez eux virtuellement, quelqu'un qui le fait sur place, puis tu le fais des deux manières en même temps.
Ouais, dire,
c'est juste une plus grosse audience. C'est plus de job aussi, c'est plus de possibilités pour votre expertise.
Peut-être aussi, ça fait juste donner le goût à personne d'y aller
ben,
en vrai.
C'est ça. Ça, ça peut, ça peut faire chose. Ça aussi. Ça peut juste donner le goût, puis en même temps, ça peut aussi donner accès à des gens qui peuvent pas se déplacer du tout, tu sais. Qui sont pognés à la maison parce que, je sais pas, pour X raisons, ils peuvent pas se déplacer, mobilité réduite, peu importe, ben ils peuvent le faire maintenant par Internet, par justement tes visites à 3$. C'est vrai que toi qui peux
mais
te déplacer...
Mais une fois que tu l'as et t'as payé 3$, tu l'as pour toujours, là, je dis ça. Là.
Okay.
C'est ça, tu peux la regarder à tous les soirs si tu veux comme un débile. Là,
mais selon vous, tu sais, là on parlait de tendance lourde, mais est-ce qu'il y a des menaces présentement au niveau de la muséologie? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être considérées nuisibles, mis à part le fait que l'indifférence humaine ou...
Les 3D printers, André, c'est clair.
Le monde va s'imprimer les musées.
Ben,
c'est une menace pour toutes.
Je pense que les 3D printers, ça les aide. Ça,
en fait. Ben oui,
ouais, exact.
Non, la manipulation exact. D'objets qui sont beaucoup trop fragiles, mais qu'il faut que tu ailles ton effet 3D dans ton exposition.
Ça fait des années que ça se passe dans des musées, ça. Là. Je m'en rappelle être déçu. Que le T-Rex n'était pas un vrai T-Rex au Musée de la Nature à Ottawa. Ça a brisé mon cœur.
Oh. Quoi? C'est pas le vrai?
Sans passer.
Non, mais c'était pas les vrais os. Là. Pas les
tu parles de cœur, mais petit aparté là-dessus. Quand je suis allé à New York au Musée d'Histoire Naturelle, là, la première fois que tu rentres dans la pièce et tu vois les dinosaures, qu'ils soient vrais ou fake,
mais sont vrais, ceux-là.
5 ans mais ou ceux-là 30 ans, moi je suis rentré là et ça a vraiment fait comme « wow ».
Okay. Mais ceux-là, ceux-là sont vrais, ceux-là sont ouais, puis ça n'a pas rapport, là, ça n'a aucun rapport. Mais justement, au musée de nature à New York, tu as aussi l'exposition d'une genre de building de l'Égypte qui a été transporté là. Je veux dire, si tu me dirais que c'était pas la vraie, ça. Puis, j'aime l'histoire de brique par brique, ce monument-là, cet obélisque-là, c'est fait apporter de l'Égypte à cause qu'il était pour tout remplir ça d'eau pour une dame. Puis, c'était cool de voir ça. Tu m'as dit que ça serait 3D printed. Puis, le graffiti de Alex qui a écrit dans un coin en bas à gauche là, Been here 1812 là, c'est des choses comme ça qui sont là, puis tu le vois, puis tu le touches, t'es comme fuck, il y a quelqu'un qui a écrit ça dans
le
désert.
Ils t'ont
laissé
le toucher, toi?
Ouais, mais ouais, cette exposition c'est le vrai, en fait, puis tu peux le toucher. Puis
moi j'étais allé au musée de l'Holocauste à Washington.
Ah ouais?
Puis il y a une salle, t'es allé?
Ouais.
Tu sais la salle que c'est toutes des ossements de juifs morts là, que t'es dedans, tu fais le bain au bout là-dedans.
Oh, ouais, fait que c'est ça.
Mais il voulait pas que j'y touche, en tout cas. Mais c'était juste. C'est, en tout cas, genre, il y a des musées de toutes, là. C'est spécial. Là.
Mais moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Eric. Justement, si jamais t'as la chance d'aller au musée Redpath à Montréal, t'as le squelette du T-Rex qui a. Yes!
Ouais, ma femme est allée à McGill. C'était une des premières places qu'elle m'a apportées.
Attends, j'ai entendu Jurassic Park.
Ouais! Mais
ouais.
C'est.
Ouais, puis c'est le musée Redpath de McGill, ça, là.
Ouais, exact. T'as un des T-Rex, des squelettes de T-Rex du musée Redpath. Qui a été vraiment copié, là, qui a été reproduit à partir de ce squelette-là pour faire le
Redpath, tu rirais, mais j'ai vu ma première expérience du musée Redpath, c'était dans un parking d'un genre de A&P Loblaws dans le nord Ontario à Sturgeon, puis c'était un genre de 18 roues qui est arrivé, puis c'était une section du Redpath qui se promenait à travers tout le Canada. Puis nous autres, dans notre petit village, on rentre là-dedans. Ça faisait 2-3 ans de Jurassic Park. J'étais gros tripeux de tout ça. Puis,
dans le temps que t'achetais les magazines à 99 sous qui venaient avec genre ça, c'est le tibia.
Non, je veux dire,
prochaine, t'as les côtes.
Ça, c'est quelque chose.
Mais c'était tout le temps plus cher. Numéro 1, il est 3$. L'autre, il est 7$. À un moment donné, t'es rendu, t'achètes ça à 26$.
Ça, c'est très québécois, ça. Comme ça, je détestais ça. Il y en avait une version comme ça en Ontario, je m'en rappelle quand j'étais jeune, mais c'était pour une voiture téléguidée. C'est comme voiture téléguidée dans un magazine. Pomme, c'est le spring de la roue gauche. Là. Mais en tout cas,
t'en manques une, pis t'es dans la marde, ouais, il marche pas.
J'ai une question, en fait, concernant peut-être dans la muséologie, dans les expositions, je suis curieux, justement, parce que ça, c'est une exposition qui se promène d'une place à l'autre. Ça, c'est une branche, je présume, de muséologie, de faire des... En tout cas, c'est ça. Puis quand t'as une vraie place qui est mise en... comme, par exemple, je veux dire, la Sixtine Chapel là, à Rome, ça, c'est-tu vu comme un musée? Ben, en fait, le Vatican, c'est un gros Christine musée, là, mais ça, c'est cool pour ça aussi. Mais une place comme le Sixtine Chapel, ce que tu rentres là-dedans, y a-tu quelqu'un qui... C'est-tu un muséologue, genre, qui a tout fait sûr que... Il y a des pancartes qui disent de ne pas prendre de photos, des choses comme ça.
C'est des conservateurs.
Ouais, c'est ça. Il faut quelqu'un pour s'occuper show, de leur collection aussi, pour tout ce qui est...
Ils font attention à tout, puis ça arrange.
Ouais, c'est ça. Voyons, bien entretenu. C'est le mot qui m'échappe. Pas collection présente.
Quoi?
J'ai gagné! Mais, trouve ton mot!
Mais en fait, je pense que j'ai eu ma réponse. Je cherchais un peu à savoir c'est quoi ce job-là. Mais c'est un conservateur. Ouais. J'ai jamais pensé à ça. Mais t'as le muséologue. J'ai mélangé peut-être les deux en ce moment.
Non, t'as des conservateurs.
Ouais, excusez.
Comment? Voilà. Pardon?
La conservation préventive.
Ouais, préventive. Quelqu'un pour
que ça dure plus longtemps. Dans
voilà. Exactement.
Comme le gars dans Ghostbusters 2 là, qui est fucké un peu et qui préserve la toile de Viggo.
Rick Moranis?
Oui!
Non, lui, t'es dans
Dans le 2 aussi.
Ils font des retouches sur la toile.
C'est ça, puis lui, il passe en arrière, puis il fait, avec son accent bizarre, il fait « Oh, tu travailles bien. »
C'est parce qu'il l'a vu parler, André.
Il fait-tu des retouches pour de vrai?
Ben, ils sur font la toile? Tu? Ben oui, ouais. Oui,
mais
il y a...
Mais il faut que tu gardes.
La restauration, toutes les choses.
Ben, je pensais ça me fait capoter, ça. Je pensais qu'il touchait à rien, puis que c'était comme, on le préserve.
Non, mais il va avoir des liquides, mettons, il peut avoir un ramassis de poussière ou un affaire de même, puis là, très, très, très... tranquillement, ils vont enlever de la poussière.
Ils crachent pas dessus avec son pouce. Là,
non, c'est ça. C'est comme quand t'avais la face sale quand t'étais jeune et ta mère était là avec le pouce. Ouais.
Ok. J'étais sûr que c'était comme touche à rien, rien qui pourrait moindrement... Au minimum, exemple, j'ai toujours une toile plus dans la tête qu'une statue. Là, une statue, pas une laptop. Là. Mais fais attention. Touche là, mais fais attention. Là, tu sais, mais...
Ben, il y a un exemple, justement, qui est arrivé la semaine passée, qu'il y a eu une restauration sur une sculpture d'un pharaon, puis qu'il y avait comme un... Je sais plus c'est quoi le nom.
C'est quoi la différence entre une sculpture et une statue? Juste ça, là. Je peux-tu sculpter une statue?
Fait que je vais continuer mon sport.
Je me demandais, parce que
ça existe d'avant.
C'était une sculpture égyptienne. Fait que là, je suis comme, attends, y a-t-il de quoi je comprends pas?
C'est une statue égyptienne.
En fait, Milton, on n'a jamais pu prouver son niveau d'autisme, mais.
Non, mais pareil.
Il est bien bon aux échecs, par exemple.
Je suis très bon. Mais là, je me demandais. Parce que la statue n'est pas nécessairement sculptée, mais une sculpture devient une statue. Ou est une sculpture parce qu'elle est sculptée.
Attends, la sculpture, c'est pas parce que ça vient d'un bloc, genre.
Non, mais édite le beat de Géopardy, drette là.
Tu sais, je le mettrai pas dans l'émission.
Je le sais, mais je le dis, comme ça, le monde peut se l'imaginer pendant ce temps-là.
Donc, on s'imagine la musique de Géopardy? Éric?
Non, mais sa question est pas en forme de réponse, fait que je suis tout mélangé. Mais...
Qu'est-ce qu'une statue? Mais non, y a-t-il une différence?
I'll take
juste...
more ads for 500.
je veux dire, je suis pas une spécialiste en art. Okay. Peut-être une sculpture avec un sculpteur. J'imagine que c'est un produit qui est créé par rapport à un sculpteur. Puis une statue, c'est tu peux avoir des statues historiques, tu peux avoir des. Tu sais, c'est peut-être plus global.
Mais elle a été sculptée, j'imagine,
ouais, mais c'est
non?
C'est plus global comme terme.
Je sais pas.
Une technologie... Hey,
je vais googler ça à ce
moment. En fait, on vous a invité, mais en réalité, vous n'êtes même pas obligé de répondre. Hein. Vous pouvez choisir vos questions. Juste...
J'ai posé ça de même.
Mais,
là,
mais on pourrait demander aux amis qui nous écoutent présentement.
Hey,
ouais.
Peut-être.
Si, la réponse.
Ben ouais, sur Twitch.
Hey, si vous savez la différence entre une sculpture et une statue, ben...
Ben, moi, je t'avoue, moi non plus, je suis vraiment pas de ce domaine-là, tu sais, anthropologie, tu connais pas ces affaires-là, mais je sais qu'il y a des statues, des sculptures, peu importe le terme, qui sont aussi moulées.
En tout cas, mais tout parce qu'il est bon à faire des statues.
Puis, fait que, c'est peut-être, c'est peut-être un élément de réponse, je sais pas, bref.
Mais non, je me demandais s'il y avait un lien, une différence.
Fait que bref, dans un musée égyptien.
Okay. Où est-ce qu'il y avait une sculpture?
Ouais, c'est ça, le pinch. Il avait été cassé, mais ils l'ont recollé avec de la glue.
mais comme...
L'époxy, là?
Ouais, quelque chose de vraiment qu'il faut pas que ça soit utilisé pour faire la restauration.
Fait que c'était genre un temps partiel, stagiaire, qui savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Ou...
Le concierge qui l'a brûlé, ouais, qui ça, a dit « Ah, shit,
ils s'en rendront pas compte. »
Voilà. Mais ça, ça l'a fait le tour en muséo. Là. C'est ah, ce genre ouais. de choses de...
Fait que ce gars-là, il est barré, là.
On sait pas ce qui est arrivé réellement. On n'a pas été suivi là-dessus, mais
il a été coulé dans une statue.
La colle éléphant ou...
D'accord.
Ouais, genre la colle éléphant blanche, là, tu sais, la marque éléphant que tu mets.
La colle blanche.
Je pense que même ça, ça a été moins nocif, tu sais, pour
Éric,
l'avoir utilisé.
Au Québec, c'était de la lepage.
Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est... Ah,
ou de la prite.
Ah, oh, de la lepage.
Ou de la prite.
Éric,
la prite, par exemple,
t'sais,
c'était comme le. Ouais. En tout cas.
La prite, elle goûtait moins bon, j'ai dit ça de même.
Il y en avait fait de la mauve un moment donné, par exemple. Ça, c'était, t'étais cool à avec l'école, c'était de la prite mauve.
Ouais, je t'avais-tu déjà conté l'anecdote de quand j'étais en maternelle, puis il y avait un gars qui siphonnait tout le temps le pot de colle liquide?
Je pense que tu viens de m'accompagner.
Non, mais là,
c'est je dis ça de moi, je m'en souviens, tu sais, j'avais 5 ans, puis je me souviens du gars qui était assis. Je me souviens pas de son nom, mais je savais qu'il avait tout le temps le pot de colle dans la bouche. Puis il siphonnait.
Excusez, next thing you know, il est au secondaire puis il sniffe du butane.
C'est ça, la suite logique.
Donc.
Pourquoi tu voulais faire partie de cette expérience?
Non, je voulais juste le regarder puis j'étais comme qu'est-ce qu'il fait.
Fait que dans le fond, Festiomuse, là je reviens, le bâton, là, ça suffit, le train a assez déraillé, on revient. Là.
L'éléphant, c'est un cheval.
Pourquoi? Okay. Festiomuse, dans le fond, si je comprends bien, c'est ça prend. Des étudiants, peu importe le niveau, mm-hmm. tant qu'ils ne dépassent pas la première année après le
doctorat. La diplomation. Ouais.
Peu importe le temps que ça prend pour être diplômé.
C'est ça.
Sweet. OK, fait qu'on vient de trouver un loophole. Direct en partant, on peut comme.
Tu te gardes tout le temps un cours que tu as qui te reste.
Dans le fond, ta philo, tu finis pas, là.
C'est ça. Ça en prend un. Je fais chier des autres étudiants là, qui veulent prolonger l'expérience. Ben oui.
Ces étudiants-là apprennent à travailler dans des équipes multidisciplinaires sur le marché du travail dans un contexte un peu plus friendly, mais ça force l'interaction entre les écoles. Puis, dans le fond, ça leur force à travailler en institution aussi. Fait que dans le fond, ils rentrent dans un vrai musée. C'est pas « Bonjour tout le monde, on est dans le local 42B, puis voici votre musée, et le curateur est là. Puis... » Mais tu sais, dans le fond...
C'est une expérience pratique.
C'est ça, c'est du terrain. Là.
C'est du terrain pur et dur, là. Cool. Avec les défis que ça comporte, puis les murs, des fois, qu'on peut être confronté, puis c'est de trouver les solutions pour essayer de contourner ça, puis voir comment est-ce qu'on peut se réajuster face à tout ça. Mais faut expliquer que Festiomuse, c'est pas... On en parle en disant que c'est un marathon de créativité, puis que les participants sont là, mais ils sont pas laissés aller là non plus. Je veux dire, il y a un encadrement qui s'effectue de la part du musée, puis de la part du point de vue académique. Tu sais, Festiomuse, déjà, en disant le mot, c'est comme deux parties qu'on réunit, mais c'est ça qu'on veut aussi, c'est de créer un laboratoire qu'on sait qu'il n'est pas parfait, mais on s'efforce réellement à mettre le côté pratique puis le côté théorique. Quand je dis pratique, c'est que chacun des chantiers que Christine parlait tantôt, il y a comme un expert, qui est un employé du musée, qui est associé à ce chantier-là, puis qui va être la personne ressource pour peaufiner ou contextualiser sur quoi l'équipe va travailler. Puis t'as un autre comité qui est vraiment tous les professeurs ou les directions qui sont nos établissements d'enseignement qui sont réunis là, qui vont vraiment donner un aspect comme pour pousser la créativité, pour pousser peut-être des concepts théoriques, d'amener un peu de la ressource de la matière liée avec un pratique. Mais on essaie de jumeler les deux au maximum pour avoir chacun des ressources. Fait que les étudiants sont là de leur volonté, sont là parce qu'ils sont fun, sont là parce que c'est du monde qui sont game de faire ça. Moi, ça m'étonne toujours quand on les voit tout arriver. Je suis comme, ah, c'est une bonne nouvelle qu'il y en a encore qui font ça, puis qu'il y en a de plus en plus qui font ça. Mais ils sont pas laissés seuls. Je veux dire, on est tous là pour aussi les accompagner.
C'est un guidage qui se fait en quelque part. Puis, mais c'est bon.
Puis c'est une bonne fenêtre de vie.
De visibilité.
C'est une bonne editing 101. Je vais l'aimer cet épisode-là, je pense. C'est incroyable.
Le respect, c'était pour
Donc, c'est une bonne fenêtre de visibilité aussi pour les gens, dans le fond, parce que vous avez eu aussi votre... Je m'excuse d'avance, je peux pas contrôler les commentaires de mes collègues, mais il y a aussi eu le bal des tentacules. Brace for impact.
Quoi? Il y a personne qui dit rien?
Il y a pas de Jones Hentai.
Il
y a pas
de ça maintenant. Là,
mais non, c'est de l'art du Jones Hentai.
Ouais, moi, je suis rendu... j'ai accepté qu'est-ce que c'est maintenant de l'art tentacule.
Donc, le bal des tentacules, qui est ouvert au public, qui a eu les gens qui étaient là. Dans le fond, il y a la remise des
mais,
prix,
mais
des choses comme
ça. Mais dealer, ça n'a pas rapport pantoute avec les animés japonais. Là, pour
non,
les,
ça
n'a
pas rapport.
C'est
ça.
Pas.
Ah oui, non, c'est juste
moi, je pensais que ça l'était, puis je trouvais ça bien normal.
C'est notre prochaine thématique l'année prochaine.
Moi, je peux juste dire une affaire, puis j'en profite parce qu'il m'a mis sur le spot, mais shout-out à Maxime Gagnon qui me plug un commentaire sur Facebook, genre « Hey, tu t'en vas d'un party d'entai? » Mais que ça apparaît public dans l'event de la place que je m'en vais. Il y a quelqu'un qui est assez wise pour effacer le commentaire. Très honnêtement, je m'apprêtais à avoir honte. Je m'apprêtais vraiment à avoir honte. Fait que, écoute, merci Max.
En tout cas, t'as des bons amis, André.
Ouais, c'était génial. Non, non, mais moi, je l'ai vu ça, puis je l'ai vu comme après une coupe d'heure. Mais quand je t'allais regarder, c'était effacé. J'ai fait, OK, il y a quelqu'un qui l'a effacé.
Tu vois les réflexions de notre fanbase tout de suite.
C'est ça. Public cible, puis.
Hentai,
mais
ça va,
en réalité, c'est ça. Donc, le bal des tentacules, ouais. c'était accessible au public. Il y avait des médias qui étaient là, des gens de l'industrie aussi. Donc, c'est une fenêtre de visibilité quand même assez importante pour vos participants. Mm-hmm.
Herbie ouais. Moreau, il était-tu là? Il a dit oh, Media, c'est... fait que moi je pense tout à Herbie Moreau. Événement, Media. Herbie.
Il n'y avait pas de vedette encore, là, fait qu'il n'y avait pas tout à fait de raison de venir encore.
Ben non.
Pour l'instant.
Ben des futures là, vedettes de la muséologie.
En fait, Stray était là.
Ouais. Les gens qui participent à ça, c'est-tu basé sur des notes?
Non,
non,
pas
non,
du tout.
C'est de volonté personnelle
non,
d'être
question,
là.
Non, bonne question, mais ouais. Ça aurait pu, parce que je sais que dans le... Il y a plusieurs, comme on parlait tantôt, là, le...
Les invitations. Ça va par invitation.
Les événements comme, ouais. En architecture, tout ça.
Oh, oui, c'est une sélection
c'est beaucoup,
qui
s'effectue. C'est ça, c'est beaucoup basé mérite. Sur la notation. Puis nous autres, on voulait pas ça non plus. On voulait vraiment que n'importe qui veut participer, se prêter au jeu, puisse le faire. Mm. Fait que c'est premier arrivé, premier servi, première personne qui remplit notre Google Form. Quand
il y a pas d'Olympiade, de course
non,
en sac de patates ou quelque chose comme
ça. On va être honnête.
Ça pour ça penser.
Le formulaire est envoyé à des gens spécifiques au début, puis après ça, vous l'envoyez ça au public.
C'est en deux temps.
On est fait, il y a pas assez de monde, on va être obligé de l'envoyer à Jean-Charles.
Il fait yes!
je voulais pas qu'on parle d'un Jean-Charles en particulier.
En passant, s'il y a vraiment eu un Jean-Charles cette année, je m'excuse d'avance, c'est pure coïncidence, je dis ça de même. Il n'y a pas eu de Jean-Charles, hein?
Il n'y a pas eu de Jean-Charles.
C'est
merci.
Bon, ça.
Ok, excellent.
En ce moment, il pleure. Après, il écoute ça dans trois semaines.
En fait, il pleure pas parce qu'il
écoute pas.
Pas dans le fond. On va être honnête, là. Il y a beaucoup de gens, même en plus, qui nous écoutent présentement, qui font « Ah, oh, musée, pour vrai? » Ben, vous venez d'apprendre quelque
Jean-Charles?
Chose. Mais donc, dans le fond... C'est ouvert, premier arrivé, premier servi.
Ouais.
Au niveau des chantiers aussi, là, vous mentionnez, c'est une personne par institution qui peut s'inscrire sur le chantier. Comment vous faites pour résoudre? Mettons, là, il y a comme deux équipes, puis là, les deux, ils veulent vraiment le chantier numéro 2. Ça fonctionne comment? Tu sais, y a-tu...
On le dit? Ouais. OK. Ben en fait...
Ça va être un gros scoop, là, parce qu'il
non,
faut
toujours
vous...
cinq,
non, okay.
Je veux
dire, s'il faut qu'elle demande la permission de le dévoiler.
C'est ça, moi je m'attends à quelque chose de juicy, là.
Non, mais... trop pas, en plus, j'ai peur de vous décevoir à cette heure. Non, mais pour vrai, on a tout le temps cinq chantiers, en fait, qui sont dévoilés. Mais on se garde toujours un sixième chantier secret. au cas où qu'il y ait un litige comme ça, justement, qu'il y ait deux équipes qui se disent « Fuck, non, les deux, on veut travailler sur le même chantier. » Fait que là, ben, à ce moment-là, c'est là qu'on sort notre sixième chantier, puis on dit « OK, ben, vous voulez jouer la game? Ben, on en a un spécial pour vous autres. »
C'est le chantier fun. Rebelle.
Ouais.
On l'aime
donc, c'est, ça, c'est comme ça qu'on règle ces litiges-là.
Il est animé par François Marquand?
Comment?
Louis-François
ben,
Martin. Salut, Gary, salut.
Cette année, on a quand même eu... moi, j'ai trouvé ça assez cool. Il y avait
ah
deux
oui,
personnes...
c'était bon, ça.
Il y avait deux personnes de la même institution qui voulaient être dans le même chantier, puis ils n'arrivaient pas à...
Ah, c'est sur cette boîte-là que je suis arrivé, puis il y a deux personnes, il y avait chacun un couteau, puis les deux mains étaient tapées avec du.
Mais c'est ça,
c'est
ça.
C'est le même qui règle ça.
Ouais, voilà. Ouais.
T'avais la tune de Star Trek, là.
Pas tout à fait, non. Mais ça s'est réglé violemment avec un 2 de 3 de roche-papier-ciseaux.
Ouais.
Oh.
Fait que.
Roche-papier-ciseaux, mais pas allumettes.
Il n'y a pas le laser du Spock, il n'était pas dedans non plus.
Non.
Non, ok.
Pourquoi vous avez pas juste sorti un 25 sous, t'as qu'à y être?
Non, mais c'est eux qui l'ont dit.
Ouais. Roche-papier-ciseaux, c'est le fun.
Ok, fait qu'en plus,
c'est animé. Tu peux pas regarder le 25 sous, tu dis TIGHT!
Fait que dans le fond, vos participants règlent eux-mêmes leur conflit.
L'idée, c'est que tout le monde, quand c'est samedi matin qu'il y a la création des équipes, puis c'est un bassin des 30 participants qui arrivent, puis on est dans une grande salle commune, puis on fait le tour de tout le monde, puis tu sais, c'est très... c'est convivial, c'est chill, là, c'est convivial, puis tout le monde se présente, tout le monde donne c'est quoi un petit côté sucré qu'ils ont. Puis ensuite, on dit, ben, vous avez vu les chantiers, il y a comme des babillards avec des textes qui expliquent un peu les chantiers. Dans la première étape, c'est vraiment, c'est, tout le monde est généreux de leurs idées, ils font le tour. Faut pas que tu t'associes à un chantier, mais en même temps, c'est que tu magasines lequel que t'aimerais, choix 1, choix 2, choix 3. T'sais, ça, c'est très explicite.
Fait que tu mets des post-it des idées que t'as sur les affiches de chantier que tu vois. Si t'as quelque chose qui te vient en tête, ben tu l'écris sur ton post-it puis tu le mets.
Ouais.
Puis t'as le droit d'en mettre sur plusieurs chantiers.
Ah oui, sur tous les chantiers. Surtout, l'idée, c'est que tu donnes au moins une
idée. Le plus que t'es capable sur chaque affaire.
Ouais. C'est ça.
Ça, c'est la première étape. Fait que là, tout le monde prend conscience des chantiers. Tout le monde connaît un peu des idées qu'ils ont vues des autres post-it, puis qu'est-ce qui ça leur tente. Puis ensuite, dans une deuxième étape, c'est de dire, bon, maintenant, dès que je dis le go, vous vous positionnez à côté de votre premier chantier, à côté du premier chevalet. Puis là, nous, c'est qu'on veut absolument avoir une équipe. La seule contrainte qu'on a, c'est que c'est une équipe que, comme Christine, tu disais, c'est un étudiant qui représente chacune des institutions. Fait qu'ils ont comme, nous, on y voit avec un repère visuel, une cocarde de couleurs. Puis quand on voit qu'il y a, après, à côté d'un babillard, il y a les six couleurs qui sont représentées, l'équipe est formée. Puis tout de suite, ils dégagent la salle, puis ils commencent à travailler. Puis là, on voit qu'il y a de moins en moins de monde, puis là, ça se parle. C'est là qu'il y a la game de roche papier ciseaux qui s'effectue.
Comme un club à 2h45, dans le fond, là, le monde se regarde tout, puis ils font...
Ça devient malaisant, puis... Voilà.
Ah ben, c'est cool, ça.
Donc c'est fait comme c'est convivial, c'est le fun, ouais. C'est relax.
C'est...
Moi, j'ai une question pour vous, dans
c'est
le fond.
C'est festif, comment?
L'ayant vécu de l'extérieur, le public, là, tu sais, dans le fond, parce que là, on s'entend, balle des tentacules, c'est public, tout le monde peut y aller.
C'était une de mes questions que j'allais poser, genre t'sais... n'importe qui peut y aller sans être invité nécessairement, juste parce que ça l'intéresse.
Ta grand-mère, ça te tombe, de venir voir qu'est-ce que t'as fait durant la fin de semaine ou qu'est-ce que le petit-fils de l'autre a fait durant la fin de semaine, elle peut venir, puis...
Ils sont les bienvenus.
Ben oui, ils sont
autant le monde qui n'ont pas de lien de parenté comme ça.
Ouais, c'est ça. Ça peut être...
Parce qu'il y a d'autres choses, des fois, d'autres mondes que les grands moments, des fois, qui...
Ben, il y a d'autres musées. Même, il y a eu, cette année, il y a eu d'autres musées qui sont venus sur les lieux, de savoir, ah, ben c'est quoi que ça consiste à être un musée haute de Festiomuse, puis, tu sais, de voir comment que ça s'est déroulé les choses. Fait que, tu sais, c'est un peu comme un terrain de PR, d'une certaine manière, puis de... Tu t'intéresses à ce qui se passe, puis tu regardes... C'est quoi les avenues qui sont effectuées? Fait un genre de magasinage un peu du projet aussi. Puis, tu sais, le bal à tentacules, c'est public très général. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment juste quelqu'un qui aime les musées, tout simplement. Puis, on a eu du monde, on a eu beaucoup de monde au bal à tentacules, que c'était des amis du musée de Québécois de culture populaire. Que eux, ils sont membres du musée, puis là, ils savaient qu'il y avait un événement comme ça qui se passait pendant la fin de semaine, puis ils voulaient juste venir voir les résultats, parce qu'ils aiment juste le musée, puis ils aiment juste qu'est-ce qui se passe dans le musée, tu sais.
Puis c'est une bonne occasion aussi pour voir un peu l'envers du décor, comme André t'avait soulevé à ta visite la fin de semaine dernière. Tu sais, c'est pas... on n'a pas souvent l'occasion, justement, de voir qu'est-ce qui se passe derrière, tu sais, les expositions super bien faites, puis un peu le... C'est le grand musée qui est porteur de savoir qu'on parlait tantôt, là. Fait que c'est aussi d'une, non seulement de l'envers du décor, mais aussi d'une autre vision qui est toute fraîche, t'sais, encore aux études, t'sais. Tu ris de moi, là?
Un petit peu.
Fait que, donc voilà, c'est vraiment, c'est une autre vision en plus de l'envers du décor. Donc c'est...
Mais André, t'as-tu aimé ça? Toi, t'as été là, justement, t'étais un public...
ouais, ben...
Tant que gars extérieur.
Un néophyte, ouais.
Moi, très honnêtement, ça m'a surpris. Je savais pas à quoi m'attendre. Je suis arrivé là...
Tu t'attendais pas de la musique, j'espère?
Je suis arrivé là avec mon chandail de Pink Floyd puis mon bang, puis j'ai fait... Non,
rien. Festival de la musique?
C'est pas ici, Woodstock en boss. Ouais. Mais non, je suis arrivé là, puis Woodstock en boss de Trois-Rivières, tout le monde le sait, tu sais. Mais non, très honnêtement, je suis arrivé là-bas, puis je savais pas en tout à quoi m'attendre. Puis c'est sûr, j'avais fait ma recherche un peu. J'avais, OK, des musées, OK. Ils font des équipes, on avait jasé un petit peu auparavant. Moi, il y a un moment que j'ai trouvé vraiment cool. Puis tu sais, j'étais en train de me promener. Il y a un moment où vous deviez vous préparer parce que là, c'était votre moment. Vous aviez votre, votre speech, puis tout le kit. Puis j'étais comme un peu tout seul. Puis là, il y avait comme une porte fermée, j'entendais le monde applaudir. Puis j'ai eu le musée à moi tout seul pendant comme une heure. Puis j'ai fait comme, OK, cool.
Yes.
J'ai eu une discussion avec une de vos collègues, Annie, je crois.
Ouais.
Je suis rentré dans une de ses expositions. Puis on a eu un moment où elle m'expliquait comme, tu sais, c'est moi qui s'est occupé de ça. Puis j'ai eu comme une visite privée, dans le fond. Tu sais, on m'a expliqué c'était quoi les étapes, la conception, des choses comme ça. Puis j'ai trouvé ça cool parce que on a tendance des fois à rentrer dans les musées puis on va y aller pour un truc très spécifique. On va se dire, OK, ben moi, je vais là pour juste ça. Puis je suis rentré dans une exposition où, puis je me souviens pas le nom, puis je suis vraiment désolé. Je m'excuse, Annie, si t'écoutes, là, regarde, je me souviens pas du nom, mais c'est un truc à propos d'une rue à Trois-Rivières.
Sur la rue Justra, je pense.
Je crois que oui. Puis c'était à propos d'une famille typique, puis c'était comme une exposition à propos de la vie de tous les jours. Mais tu sais, une famille, puis il y avait un... Puis... Allez, je cherche mes mots, mais... Moi, je suis passé devant la pièce, puis j'ai vu comme il y avait un diorama, en tout cas une réplique des buildings.
La maquette,
oui. La maquette, c'est ça. Il avait fait comme une réplique de la rue, puis moi je suis rentré là-dedans, j'ai vu ça, puis j'ai fait « Hey, cool! » Puis là, je suis allé là, puis « Wow! » Tu sais, c'est bien fait, puis c'est tout à l'échelle, c'est le fun. Puis pendant que je suis dans la salle, je jase avec Annie, elle m'explique un peu conception, puis là, tu sais, puis moi-même, j'ai fait le tour de la pièce, puis tu vois, à la fin, elle me dit « Ben regarde, au début, j'ai posé la question, je dis « Il y a combien de personnes qui ont contribué là-dessus? » Elle dit « Ben, t'as la plaque au début qui te dit qui a travaillé dessus. » J'ai fait comme « Ok, le cave, good job, t'aurais dû checker. »
Ça, c'est Annie.
Mais... Non, non, mais c'était même pas mesquin, mais c'est juste, c'est moi, j'ai fait comme « Tu sais, ah, wow, des belles maisons, puis là, les photos, puis les affaires la même. » Puis après, je regarde le contenu, mais... Tu sais, là, elle m'explique, puis t'as eu beaucoup de monde qui ont travaillé là-dedans. Il y a quand même une dizaine de personnes qui ont contribué à ça. Puis, j'ai eu un moment où j'ai pu jaser avec elle aussi, parce que moi, je suis rentré dans la pièce, puis c'était les maisons qui m'ont attiré. Je suis rentré, puis j'ai vu des petites maisons conçues, des choses comme ça, puis moi, je suis rentré là-dedans, j'ai checké ça. Moi, je suis dans la trentaine. Les petites maisons m'ont intéressé. Ensuite, t'as des petites filles puis leur mère qui rentre, puis les petites filles, il y avait comme deux écrans de télé dans le fond avec des écouteurs, puis eux autres, c'est fuck les maisons, puis les tableaux, puis les photos, puis ils sont rués sur l'écran. Puis j'ai pu avoir une conversation avec Annie, justement, c'est l'influence du numérique, des choses comme ça. Puis, tu sais, elle a expliqué aussi, regarde, écoute-moi là-dessus, j'ai fait de la recherche, c'est ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que j'adore beaucoup l'aspect de rechercher, aller trouver des trucs. Mais tu sais, c'est là que, quand vous parlez de l'envers de la médaille, moi j'ai pu le vivre dans cette exposition-là, tu sais. Puis j'ai vécu plusieurs expériences, dans le fond, où j'ai pu voir l'envers du rideau. Ensuite, je suis rentré dans l'exposition des jouets antiques, que ça, j'ai juste comme...
Capoté!
J'ai trippé, là. Il y a des robots antiques vintage, j'ai le goût de... Je vous compterai pas ça, mais j'aurais pété une vitre puis je serais parti avec.
Juste pour savoir, mais... tu parlais des enfants qui se faisaient asphyxier sur l'écran ou qui se faisaient...
Ben, en fait, ils s'asphyxiaient pas, là. C'est
moi puis mes mots incroyables qui sortent dans ma bouche pour aucune raison. Mais c'est parce que j'ai apporté mon neveu plus jeune voir une exposition sur le Empress, la Irish Empress, là, c'est un bateau qui a coulé, des milliers de personnes qui sont mortes, puis c'était au musée de l'histoire du Canada. Dans le milieu de l'exposition, super cool.
C'est mis à
film. Non, mais il y a une animation qui est très hot, là, mais c'est une animation que tu vois le bateau qui coule, puis du monde qui meurt, puis c'est du monde qui est dans le drame. Puis mon plus jeune neveu de 4 ans et demi, tout ce qu'il voulait voir, c'était cet écran-là. Beau, il montrait toutes les maquettes, puis il essayait d'y raconter toutes les histoires de tout ça. Il voulait juste voir le bateau couler. Puis même au point qu'il m'a manipulé à la fin juste pour venir.
Il était
là parce qu'il a remarqué l'entrée de l'exposition qu'on avait rentré après. Puis là, c'était juste lui marcher vite. Puis il rentre là-dedans. Puis là, il marchait vite. Je dis, Christy, où est-ce qu'il s'en va? Puis on rentre dans le milieu avec le maudit film. Puis il s'assied. Puis moi et ma femme, on se regarde. On est comme, qu'est-ce qu'il fait? Puis il veut juste voir ça.
Mais c'est là que, tu sais, il y a une tendance différente. Sauf que d'un autre côté, quand j'étais dans la pièce avec les jouets, ce que j'ai trouvé cool. T'sais, on parle d'immersion puis de nouveau un renouveau de musée. Il y avait comme une course un peu. Ben, pas une course, mais une chasse au trésor. Hey, trouve tel jouet de telle époque, des choses. Fait que là, les kids se promenaient avec leur charte, puis hey, j'ai pas trouvé lui. Hey, j'en ai trouvé un! Puis là, ils partaient à courir partout. T'sais, j'ai trouvé ça cool. Ensuite, t'sais, c'est sûr, regarde. J'ai été intimidé un peu parce que je voulais pas déranger les gens, parce que c'est sûr que c'était les heures finales. Fait que tu sais, quand vous m'avez montré le lab en tant que tel, je suis rentré, j'ai voulu prendre une photo à un moment donné, puis j'étais avec toi, Christine. Les gens étaient en train comme de préparer leur dernier tableau. Je me suis approché avec mon appareil, j'ai fait « Finalement, le climat est peut-être pas propice à ça. » Je me suis juste reculé, tu sais, ils ont juste levé la tête comme il nous reste 15 minutes. Bip! Avec ton mot bip d'appareil. Fait que je me dis, bon, ok. Clic, clic, j'ai déclenché une fois, je suis parti. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai vécu comme un peu l'envers de la médaille, mais le bal de tentacule.
Ouais.
C'était cool. C'était vraiment cool. Tu sais, premièrement, t'arrives, tu vois le résultat fini, tu jases avec du monde. Tout le monde est là, tu peux interagir avec les gens qui ont participé, prendre un peu de feedback, des choses comme ça. C'était le fun. Puis, au début, je savais pas trop, tu sais, qu'est-ce que je fais ici en tant que tel, parce que je connaissais rien vraiment en tant que tel du musée, des choses comme ça. Mais quand j'ai commencé à lire les chantiers, quand j'ai commencé à voir les solutions, c'est là que, maintenant, tu te donnes une chance. Tu sais, le collectif, une des choses que ça m'a permis de faire depuis le début du projet, c'est me sortir carrément de ma zone de confort. Cette journée-là, pour plusieurs raisons, dont le blizzard, ça m'a sorti de ma zone de confort. Mais par contre, je suis rentré dans le musée et j'ai fait comme, bon, OK, premièrement, je sais même pas où il est où, je connais rien de Trois-Rivières, on se connaît pas, j'arrive là-bas, c'est fait, c'est au muse. Mais j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça différent, puis le monde, des fois, devrait sortir de cette zone de confort-là un peu. Tu sais, regarde, j'ai pas donné la chance beaucoup au musée dans ma vie, je suis allé voir l'expo... un médecin de Montréal qui a une collection d'armures japonaises importantes sur les samouraïs et des choses comme ça. Ça, j'avais trippé mes raids. Point à Kaya, j'avais vu ça. J'ai vu, tu sais, Star Wars, Star Wars, ouais. Des trucs comme ça. Mais c'est con à dire, mais après avoir fait votre événement, ça, puis c'est pas ça pour être licheux, mais ça m'a donné le goût d'aller voir d'autres musées parce que tu comprends le travail qu'il y a en arrière de ça. Non, mais c'est parce que tu comprends le travail qu'il y a en arrière de ça. Puis c'est con à dire, mais on dirait que c'est un peu... C'est peut-être le fait qu'en vieillissant, quand j'étais jeune, je m'en crisse un peu, mais maintenant, on dirait que je prends plus le temps, puis c'est une capacité, puis...
C'est vrai que Félix ne prenait pas son temps à se rendre au Christine Musée, des films de bateaux qui coulent.
Félix, c'est ton neveu, right? Ouais. OK, cool, parce que moi, j'étais vraiment perdu dans... je me demandais c'était qui Félix, puis... Mais non, mais c'est ça, tu sais, c'est...
Tu connais pas Félix?
Félix is my homeboy.
Tout le monde connaît Félix.
Mais c'est ça, tu sais, c'est ça donnait une chance.
Yo, tu pas mon feed, calice?
Écoute, je peux pas, Milter pollue le mien, présent. Mais, des jokes, Milter, j'adore tes vidéos.
C'est pour ça que je suis aidé.
Non, t'es pas aidé, t'as juste enlevé tes notifications. Mais en gros, c'est ça, on se prive des fois de certaines choses, puis j'aurais pu faire carrément, écoute, regarde, c'est dimanche, premièrement, Milter Perry qui était pas disponible, j'ai monté là tout seul, j'ai fait comme... T'sais, j'aurais pu juste faire comme... mesdames, je suis malade aujourd'hui, je m'a resté à la maison, mais en réalité, ça valait la peine d'y aller, puis c'était juste cool de voir un peu les problèmes qu'un musée peut avoir de nos jours, de comprendre la réalité, de voir un peu comment des gens qui vont faire la relève un peu dans ce milieu-là voit la solution, voit comment prêter le problème. De voir aussi, même, justement, vous parliez des abonnés du musée, là, je sais si c'est le bon terme, abonnés, mais en tout cas, des gens qui se promenaient, puis, hey, c'est vrai ça, dehors, on le voit peut-être pas bien, le musée, puis, hey, prenons ça, ah, ça serait cool, puis telle affaire, ou bien... C'était le fun de voir un peu tout ce...
C'est quand t'es habitué, tu le vois pas de la même façon.
Mais c'est ça.
C'est l'œil extérieur.
Et Dieu sait que j'étais tellement habitué que j'ai vu de ça. Non, mais... mais c'était carrément ça. C'était nouveau, c'était différent. C'est sûr, OK, Trois-Rivières va peut-être intimider certaines personnes, mais j'imagine que...
Mais il y a du monde qui habite là-bas aussi.
Le projet bouge.
Ben oui, oui, en fait, la première année, on était à Montréal, on était à Pointe-à-Calière. Cette année-ci, on était au Musée québécois de culture populaire. L'année prochaine, on va voir où est-ce qu'on va être. Mais juste pour faire du pouce sur ton idée avec le bal de tentacules, en fait, moi, tu sais, quand on pensait au début au bal de tentacules, d'avoir un moment où est-ce que c'était une vitrine pour les participants, puis c'est d'avoir le public, puis de faire comprendre que... Mais en fait, c'est de faire comprendre que c'est une profession, quand même si on peut pas très bien la définir, la muséologie, on s'entend, être muséologue, mais c'est une profession, puis si on est toute une gang de malades, vraiment, on est, sérieusement, il faut vraiment être passionné, puis faut comprendre que c'est pas un milieu facile, on est beaucoup de cohortes à sortir à chaque année, on n'y a pas tant de jobs que ça, il y a beaucoup de coupeurs, je vais pas embarquer là-dedans, mais tu sais, on est quand même toutes rassemblées, puis on a tout du bon vouloir, on est toute une gang de tripeux qui ont le goût d'être là pendant 60 heures, tu sais, comment, 60 heures à Trois-Rivières, dans une auberge de jeunesse.
T'as fait le tour.
Ouais. Puis juste pour être là, pour le fun, tu sais, puis pour créer, puis pour se côtoyer. Puis ça, ben, je trouve que c'est le fun de le montrer au public. Ça, c'est quelque chose que quand je pense, mettons, à mon père, ma mère, tu sais, puis j'essaie de leur expliquer, puis je me dis, ben, les tentacules, c'est peut-être une belle vitrine pour montrer que dans un musée, ben, t'as des objets, t'as une collection, t'as un aspect d'éducation, mais t'as du monde. t'as du monde qui est là.
Il y a une job derrière, ouais. Juste mettre une statue sur un petit cube, genre une sculpture. juste sur un petit cube, puis il est là quand tu rentres, puis tu le regardes. Il y a quelque chose derrière ça. Puis si c'est ça qui arrive, mais c'est parce que c'est pensé en quelque part. Pour... Ouais. Non, mais c'est vrai, dans un sens, puisqu'avant, c'était juste. Comment dire ça? Des toiles sur un mur. Puis,
c'est ça, c'était juste le visiteur qui
regardait. Pas de feeling tant que ça. Puis,
Avant de vous quitter à l'événement, je vous ai posé une question. Et je reviens dessus. Parce que je tiens à cette question-là. Si vous aviez une chose que vous voudriez que les gens se rappellent de Festiomuse ou les gens qui ne connaissent pas Festiomuse se souviennent de l'événement. T'sais, on a parlé là, pendant de long à large, on a parlé que c'est une belle fenêtre d'ouverture pour les gens qui vont travailler dans le domaine. Ça fait voir l'envers du rideau, les choses comme ça. J'imagine voir un Festiomuse en 2016. On travaille probablement là-dessus présentement. Là, vous hochez la tête pour les gens qui nous écoutent et qui comprennent c'est un format audio. Oui, donc oui.
Oui. C'est commencé.
Donc, en 2016, on travaille déjà sur le projet. Donc...
On exclut André.
Effectivement. Non, mais on exclut même, toujours la personne qui parle. Donc,
et
n'inclut
pas plus l'utiliser. Moi Eric. Là.
Exactement. Donc, Eric, Festiomuse en 2016. Mais non, mais en réalité, un message envoyé aux auditeurs qui ferait regarde justement, qu'est-ce. Pourquoi on sort de notre zone de confort? Pourquoi on vient voir Festiomuse au Bal des Tentacules? Pourquoi on va au musée tout court? C'est quoi le message que vous voulez qu'on vienne aux gens?
Un mot, pourquoi?
Ah, vous pouvez y aller à plus qu'un mot. On va pas trop vous limiter, très honnêtement. C'est une question qui est pas facile, mais j'y tiens pour une chose, parce que vous êtes des passionnés, puis on a des gens qui connaissent peut-être pas cette passion-là, mais qui sont sur le tremplin présentement, qui disent « Ouais, je suis peut-être prêt à essayer quelque chose de différent en 2015-2016. » Pourquoi on se lancerait dans un musée? Pourquoi on irait voir le Bal des Tentacules?
C'est une grosse question.
Mais moi, je pense que je suis pas là-dedans, mais je me dirais que c'est personnel à chacun, dans le sens que tu y vas-tu parce que t'es un tripeur juste de te promener dans un musée ou de... Moi, je le vois comme je parlais, je reviens au Game Jam, là, mais tu sais, cet aspect compétition de création, ok, vous, il n'y a pas l'aspect compétition, mais je pense que ça peut intéresser du monde, ça aussi.
Mais il faut quand même t'arriver à un deadline.
Parce qu'il y a du monde, parce que c'est un peu une compétition intellectuelle de brains. Moi, je vois ça, parce qu'il faut que tu penses, tu sais, le côté intello, pas je suis connaissant, je suis autant, puis tout, là, mais le côté, on réfléchit créatif.
Ingénieux,
puis pour
innovant.
Certaines personnes, ça peut être comme, waouh, je m'attendais vraiment pas à ça, qui sort de quelque chose quand moi j'ai entendu ça, puis. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un que même s'il ne traite pas nécessairement musée comme un débile, peut être attiré vers cet aspect créatif-là de la chose. Là. En tout cas, d'après moi. Là, mais j'étais pas là, fait que je le sais pas.
Même, tu vas être là l'année prochaine?
Mais je vais essayer, oui. Si vous m'invitez.
On t'invite.
OK, c'est bon. Je t'ai invité, yes.
Ben, je peux peut-être y aller d'une réponse vraiment personnelle.
Ouais.
Moi, je dirais, j'aime beaucoup, je suis quelqu'un qui aime ça, voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que je vois. Fait que pour moi, ça serait une bonne occasion de voir, tu sais, oui, il y a des objets, oui, il y a des trucs qui sont exposés, qu'on s'efforce de montrer, mais il y a aussi toute une gang de gens derrière ça qui se fendent le trognon à tous les jours pour pouvoir rendre ça accessible. Donc, que le monde, ça leur tente de venir voir telle ou telle exposition, que ça leur tente de venir passer, faire une activité, venir à une conférence au musée, puis que c'est vraiment sur ça, c'est ça leur ligne directrice à tous les jours. Puis...
Dans le fond, tout est comme la personne qui essaye d'aller backstage dans le show rock. Là, tu vois, qu'est-ce qui se passe là? Mais tu sais, c'est
dans
ça qui.
Genre,
c'est,
ouais, c'est ça. Là,
c'est voir qu'est-ce qui se passe en arrière.
C'est une passe free pour le
VIP pass
VIP
backstage
là, c'est ça.
Ah. Savoir c'est qui a animé le bateau qui coulait. Que mon petit neveu est.
Exactement.
Félix.
Exactement.
Félix. Salut Félix. ben, moi aussi, je vais y aller d'un. T'as-tu fini, toi?
Oh, oui, vas-y. Okay.
Je vais y aller d'un côté aussi, tu sais, personnel. Je vais peut-être retourner un peu la question en disant ce que j'aimerais qu'on se souvienne de Festiomuse. Puis, je pense que c'est peut-être plus teinté en lien avec les participants ou ceux qui ont connu un peu Festiomuse. Mais je dirais que c'est... Festiomuse, là, c'est... Je veux qu'on se souvienne que c'est Festiomuse. C'est un aspect festif, c'est un aspect... C'est le côté de la...
L'inspiration.
L'inspiration avec les muses. Puis, en son centre, c'est un O. T'sais, on prend le temps de dire Festi-O-Muse. Pourquoi? Parce que nous, on voulait vraiment que le O, la symbolique du O, autant que tu prends le temps de le prononcer, puis tu t'arrêtes, tu t'enfarges dans ce mot-là, ben tu t'en souviens parce que tu t'enfarges justement dans ce mot-là, mais un O, c'est vide, c'est toujours en perpétuel changement, puis Festiomuse, ça va évoluer, ça va changer, ça va être un projet qui va s'adapter à qui va être dans le projet, qui va être dans l'organisation. Ça a été créé pour que ça change, qu'il y ait une vision qui s'effectue. Là, c'est nous les cofondatrices, mais quand on va passer la POC, parce qu'on va éventuellement passer la POC aussi, c'est vraiment que ce projet-là soit mis dans les mains de chacun, puis qu'ils en prennent part, puis qu'ils font comme une plasticine, puis qu'ils le créent comme qu'ils le désirent. Puis, ben le haut, c'est autant que c'est un vide, mais autant que moi, je le vois comme une vision, comme une cible. Puis c'est une cible, c'est un point qu'on veut, une vision de muséologie. C'est un point commun à tout le monde dans la communauté. C'est de dire, OK, regardez, on regarde à l'horizon, là, c'est ça qu'on veut se rendre. Mais c'est tout le monde qui doit avoir cette vision-là pour se rendre là. C'est peut-être un peu un aspect genre super philosophique, là. Puis j'ai pas...
Ouais, non, mais on y a vraiment beaucoup pensé.
Mais c'est ça,
c'est qui a dit que c'était l'infini encore? Est-ce quelqu'un qui l'a dit ou... Festi au mieux, c'est l'infini, vous allez en avoir pour toujours.
Ben, toujours, mais exactement. C'est ça, mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand on a pensé au nom, c'était vraiment de... On l'a conceptualisé avec cette teinté par ce symbolisme-là. Puis même chose pour notre logo, tu sais, avec les pieuvres, avec le multidisciplinaire.
La multidisciplinarité.
Merci, Christine. Elle me rattrape toujours ce mot-là. L'effet qui rentre dans un musée, tu sais, c'est notre logo, c'est vraiment deux pieuvres qui sont ensemble et qui rentrent dans un musée. Tu sais, c'est tout ça, c'est voulu, là. C'est comme, c'est pensé. Puis je pense que c'est ça qu'on veut aussi, que notre image parle par elle-même. Même si tout le monde se demande pourquoi t'as des pieuvres dans ton musée. Mais...
Tout le monde aime les pieuvres.
Non.
Ben, premièrement, merci de nous avoir invités dans votre aventure pour moi et pour l'équipe, dans le fond.
Absolument.
C'est quelque chose qui nous a sorti de notre zone de confort, mais peut-être pas pour les mauvaises raisons.
Ben, c'est pas une zone de confort pantoute. Je veux dire, j'ai toujours aimé voir des expositions. Fait que c'est toujours le fun de parler des gens en arrière de ça. Qui n'aime pas aller à un musée, vraiment? Comme, si t'aimes pas aller à un musée...
Oh, il y en a plein!
Ouais, mais ils sont plates!
Ben, je pense, que... ouais, ben, pense qu'en fait, c'est peut-être pas qu'ils sont plates, c'est qu'ils ont peut-être pas choisi soit le bon musée ou la bonne expo.
Parce qu'à la limite, c'est-tu...
420 institutions mentionnées, il doit y avoir quelque chose pour tout le monde.
On s'entend que les gens qui n'allent pas au musée, c'est les gens qui taguent du monde dans des commentaires. Dans sur des
mais aussi, je pense que depuis une couple d'années, les musées ont évolué, comme
oui,
vous disiez
oui,
tantôt. Puis, gars, va voir une exposition de Star Wars, c'est un musée.
Mais oui.
T'es pas obligé d'aller faire tout comme moi puis passer mes midis à manger du Burger King en regardant
le Grévin,
les toiles. Ben ouais, n'importe quoi.
Ouais.
C'est tout des musées. Là,
c'est à la limite, justement, commencer avec ça puis regarder pour le reste par la suite.
C'était quoi le musée des jeux vidéo à Québec, là? Je sais pas quoi qu'il y avait. Il n'y a pas Sherbrooke, pas à Québec, Sherbrooke. Je mélange les deux tout le temps.
Mais il y avait
de quoi un musée. Ça compte comme un musée.
Ben, mais c'est une
organisation. C'est ça, justement. Ouais. J'étais pas allé à celui-là, mais le monde qui sont pas sûrs, là, tu commences par là. Ceux qui nous écoutent et qui sont pas trop au musée, là, va voir des vieux jeux vidéo, tu te sens à l'aise, puis à un moment donné, tu y retournes, puis c'est d'autres choses que des jeux vidéo.
T'es en train de dire que l'idée fixe, c'est un musée? Tu vas checker des vidéos, des vieux films, puis des jeux vidéo usagés.
Mais, en tout cas...
Afin d'éviter qu'on dérape un peu plus profondément dans le sujet, ben, merci de nous avoir invités. Merci de vous être prêté au jeu aussi, d'être venu au collectif. C'est peut-être pas quelque chose qui peut être super évident de votre côté non plus.
Ouais, nous aussi, on est sortis.
Excellent, ben, merci de vous avoir prêté au jeu, justement.
Désolé du fiage sur le chest, là.
La vidéo, là, pas...
On a tenté de faire découvrir votre calvaire, man. À chaque fois que j'arrive pour closer, vous m'en sortez.
Non, mais sérieux, je veux voir la vidéo. Là. Faudrait...
J'ai été banni 3 jours, faudrait que j'essaie de trouver.
Donc, merci d'être passé au collectif. Merci d'avoir fait découvrir votre passion. Pour les gens qui voudraient entrer en contact avec vous, si les gens ont des questions à propos de Festiomuse, de muséologie ou peu importe, les gens qui voudraient vous contacter, on vous contacte comment exactement?
Facebook, Twitter, @Festiomuse. assez simple. Sinon, il y a aussi le site internet festiomuse.wordpress.com.
Excellent. Ben merci beaucoup. Éric, les gens qui voudraient te rejoindre.
Ben, Montréalien, un peu partout. Là, Montréal, IEN, Facebook, Twitter, PSN, n'importe quoi. Puis Heroes of the Storm, on n'oublie pas l'équipe Team Aware maintenant qui sort des challenges.
Team Aware.
On est l'équipe en ce moment la meilleure au Québec de ce qu'on sache.
Ils sont aware qu'ils sont la meilleure
équipe. On est la meilleure équipe au Québec de Heroes of the Storm. Puis on est très hâte de se le faire prouver le contraire. C'est
ben,
même qu'on va être meilleur.
Je souhaite de vous faire prouver le contraire. Milton, les gens qui voudraient interagir avec toi?
Ben, Facebook. T'as juste à checker la vidéo Tug Life qui s'est puis d'ajouter la personne qui les a toutes postées. Je dois pas être tough à trouver cet site. Twitter, Zombie Milter, puis toutes les consoles ou Steam qui existent, Milter 187, puis pas mal ça. J'ai-tu d'autres choses? Non? Ben oui, mais c'est pas important.
Quoi, t'as pas Pinterest?
Oui, oui, j'ai Pinterest, mais je me souviens pas de mon nom parce que je ne pose pas vraiment là-dessus. Il paraît que ça va mieux quand t'es une femme, je sais. Je le sais pas, mais j'ai vraiment de la misère. Non, mais c'est du ça de même.
Sur ce commentaire sexiste, nous allons donc.
Je leur donne un avantage. Si c'est pas sexiste.
Oh my God.
Donc, merci d'avoir participé ou d'avoir monté à bord le train que je tente désespérément à chaque épisode de ramener vers le droit chemin de la raison. Nous avons donc dérapé quelques fois ce soir.
Ok. Fait que toi, on peut te suivre quoi, Facebook? Toi,
non, non, en fait, Facebook, j'ai découvert que finalement.
Il est fermé.
Ben, non, il est pas fermé, mais c'est juste que. Je sais pas, j'ai pas rien d'intéressant à dire sur Facebook.
C'est parce qu'il y a un cave qui arrête pas de poster des vidéos de Tug Life, tu sais, puis il est plus capable.
En réalité, j'ai rien à apporter au monde via Facebook, tu sais.
C'est à cause que les hashtags NoFilter, ils marchent pas sur Facebook?
Suivez-moi via Instagram ou Zumaki QC, sinon sur Twitter. Je suis sur Pinterest. Holy shit! Ah, Milton, mets ça dans ta pile.
Ben, je suis dessus aussi, j'ai juste bien de la misère à comprendre comment ça marche.
Donc, sinon.
Ouais, mais gars. Yeah. Je suis pas allé à l'université, moi, là.
Tu viens de perdre 20 plantes, Milton, ben, c'est correct. Donc, utilisez votre monnaie sociale si vous appréciez le projet. Justement, le collectif, ça fait 2 ans qu'on roule. Le 56e épisode ce soir.
Saison 1,
toujours. Vous appréciez le projet, vous aimez les épisodes, vous écoutez les lives, vous interagissez avec nous. C'est super simple. La meilleure manière de le démontrer, c'est 5 étoiles sur iTunes. On accepte les 4 aussi, mais 5, c'est vraiment plus cool.
On
n'a
juste
nous,
pas
là.
Machine passer les cartes.
C'est ça, on n'a juste pas machine passer.
Mais on les accepte pareil. En attendant.
On demande-tu aux filles de Festio Muse de choisir la musique de fin?
On peut inviter nos invités à choisir la musique de la fin. En fait, c'est une tradition où on prend la toune de votre choix, mais on va trouver la version la plus étrange et wrong fait possible.
Si une version au gazou de la chanson que vous choisissez, on va prendre ça.
Ou quelqu'un qui chante vraiment mal au karaoké sur YouTube, il y a de très bonnes chances que ce soit ça. Donc, on vous laisse le choix.
Pendant que vous réfléchissez, je vais juste demander une question. André, tu te souviens-tu de l'émission Rock and Roll avec Rémi-Pierre Paquin?
Non.
Chanceux, man. Si que j'ai ça dans la tête, puis ça m'écœure. Fait qu'avez-vous trouvé votre chanson?
on échange des regards perplexes.
C'est
des regards de toune de Rihanna qui s'en vient au gazou, je
ben
pense.
Ben non, je m'en allais dire Guns N' Roses, mais je sais pas s'il y a des tounes n'importe
quoi. Garde ça facile
faut
comme
faire
ça.
Confiance à Internet. Donc une toune de Guns N' Roses?
Ah ouais, c'est simple. Une toune de Guns N' Roses, je sais qu'on va trouver un mauvais
coup. Donc, sur le choix de Guns N' Roses, nous sommes le Geek Collectif et on s'excuse d'avance. Bonne soirée tout le monde.